Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lorenza, qui, si je ne m'abuse, a un très beau bob sur sa pépé, à moins que ce... Ah non, pardon, c'est un cône de chantier. Non, j'allais dire à moins que ce soit un abat-jour, mais après j'ai regardé, j'ai vu vraiment des bandes oranges et jaunes, et blanches, pardon, donc c'est un cône de chantier. Bon après-midi et bienvenue dans un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, quel plaisir. Je suis toujours Mimi Hegel, je suis toujours l'animatrice de Laisse-moi kiffer car on ne change pas une équipe qui gagne. Et en parlant d'équipe qui gagne, on a une équipe de choc avec nous aujourd'hui. Je vous dis ça tous les jeudis, mais c'est vrai tous les jeudis.
C'est vrai.
Donc vous pouvez pas vraiment m'en vouloir de vous donner des fake news car c'est réel, c'est validé par Mediapart ainsi que l'INSEE. On a une équipe de choc dans tous les épisodes de Laisse-moi kiffer et aujourd'hui on va apprendre à se connaître en posant une question qui m'a été inspirée, alors je vais retrouver le nom en attendant parce que j'ai pas bien travaillé, qui m'a été posée par une auditrice, donc merci à elle. Je vous la pose et après je recherche son identité personnelle. La question c'est genre, quelle céréale Kellogg's êtes-vous? Mais comme d'hab, c'est pas vraiment quelle céréale Kellogg's êtes-vous parce que l'idée c'est de raconter notre vie et pas de faire un questionnaire de Proust. Donc c'était quoi la céréale Kellogg's iconique de votre enfance? Vous étiez dans quel team? Il y a des teams Chocapic, il y a des teams Miel Pops, il y a des teams pas Kellogg's si jamais vous êtes là. Moi en fait je suis bobo et ma mère me donnait des flocons d'avoine à rien. Et bah c'est possible. C'est peut-être un peu visé pour la personne qui a une daronne nutritionniste qui sait que des boules de sucre dans du lait c'est peut-être pas le meilleur petit déjeuner pour des enfants. Voilà, c'était quoi votre petit déjeuner d'enfance avec une petite emphase sur les céréales? Mathis, qu'est-ce que tu mangeais le matin comme céréales quand tu étais petit?
Alors moi, dès l'âge de 0 ans, j'étais porté sur l'éclectisme, donc j'aimais...
Donc j'aimais le jambon, finalement, au petit déjeuner, ainsi que les coquillettes.
Alors non, car je n'ai pas grandi en Alsace. En revanche, j'aimais bien, tu sais, ils faisaient des mini-paquets qui étaient affreusement chers. C'était vraiment une giga-arnaque.
Mais ce n'est pas rentable.
Mais quel pigeon j'étais. Et parce que du coup, ça te permettait de varier des céréales et j'étais en mode comme ça, je ne me lasserai jamais.
Mais toi, tes parents, ils achetaient les mini boîtes.
Non, bien
sûr
que non.
Mes parents, ils avaient 3 enfants, ils étaient là, zéro acheter des mini boîtes, on va acheter une grande boîte et ça sera la même boîte pour tout le monde.
C'était ma vie idéale en vrai, mais j'étais content de changer de paquet de céréales à chaque fois et du coup, on s'engueulait un petit peu avec ma sœur pour essayer de se mettre d'accord sur quel paquet
serait
le
meilleur. Mais t'avais pas de préf du coup. T'es en mode, je suis en relation libre des céréales quoi.
Un peu.
Et un peu bi des céréales aussi, tu vois. Genre, pourquoi choisir?
Voilà,
j'aime tout.
Bi, versa, pantou.
Moi, je suis pan Kellogg's quoi.
J'étais pan Kellogg's et j'étais pan même d'autres marques Kellogg's.
Ah oui, bah tu bouffes à tous les râteliers, désolé.
Bah genre chocolat cookie crisp, c'est pas Kellogg's si?
Non, je crois pas.
Et bah voilà.
Il y avait déjà ça.
Bah je crois, ça fait pas si longtemps.
Les cookie crisp. Mais est-ce que c'est pas comme Coca-Cola qui se déguise derrière d'autres marques pour tout posséder?
Oui, je pense que c'est peut-être genre la maison mère de Kellogg's qui doit être Nestlé, je pense.
Bah ça tombe bien, il y a Elise Lucet qui va venir juste ici et c'est parti, on l'accueille maintenant. Non, bah donc on t'aura jamais. Voilà.
Mon rêve. Putain, Elise Lucet dans LMK. En vrai, j'aimerais trop qu'elle vienne nous parler de ses kiffs et de ses céréales Kellogg's préférées. Élise, si tu nous écoutes, peut-être es-tu une LM Cœur ou une LM Crado ou une LM Caribou. Viens donc. Une LM Cache Investigation, finalement.
Une LM Cache Investigation.
Waouh.
Ok, donc Mathis choisit de ne pas choisir. Et c'est vérité.
Oui,
toi,
mais finalement. C'est vraiment, ouais. Toute ma vie était en fait définie par ce que je mangeais le matin. Je sais qu'en tout cas, le petit déjeuner, c'était un moment que j'aimais à la fois beaucoup... D'un point de vue nourriture,
gustatif,
c'est mieux dit, mais c'est pareil.
Tu vas pas me tester sur les termes culinaires et tout ce qui a rapport à manger, Mathis, car je pense que c'est mieux dit, mais c'est pas pareil.
Oui. En revanche, c'était un mauvais moment d'un point de vue misophonie, parce que mon père a la mauvaise idée de manger en faisant du bruit, ce qui est extrêmement pénible.
J'ai des membres de ma famille qui mangent la bouche ouverte avec
un
mélite.
Voilà. Et du coup, le matin, je trouvais 30 000 excuses pour m'occuper au lieu de petit déjeuner. Et du coup, je me foutais un peu en retard et j'étais obligé de manger super vite après parce que j'attendais que mon daron, avec ses yeux mi-clos le matin, là, parce qu'il venait de se réveiller, finisse de manger son affreuse banane qui trempait dans son café ou je sais pas.
Quoi ?
Je sais pas, c'était affreux.
Moi, je trouve pas ça si choquant. Je pense que ça peut être assez intéressant.
Une banane trempée dans un café. Non, genre, je pense qu'un défaire café banane, je suis là, why not? Une banane juste trempée dans du café chaud, c'est juste liquide, ça coule dessus.
Il est totalement possible que je raconte n'importe quoi. Ce qui compte, c'était le bruit dans cette histoire.
Un bruit mou.
Je n'étais pas.
On n'est pas sur un crunch.
J'allais dire, j'étais pas dans la bouche de mon père, mais.
Oh là, allez, Anthony Vincent, c'était quoi ton petit déj? Attends, j'ai retrouvé. Pardon. Merci beaucoup à Audrey qui m'a soumis cette question en me disant: bonjour Mimi, je suis en train d'écouter LMK et j'ai une inspiration questionnaire de Proust pour vous, car en vrai, ça en dit long sur la personnalité de la personne. Quelle céréale Kellogg's étiez-vous plus jeune? Moi, je me rappelle que j'étais Cheerios ou Coco Pops, mais ma sœur aînée préférait les Corn Flakes. Quelle idée. Oula. Donc, c'est ce qu'on avait malheureusement au petit déj. Merci Audrey de nous avoir partagé ton traumatisme et de nous avoir inspiré cette question. Anthony Vincent.
Oui, alors mes céréales préférées, oui, ma mère était nutritionniste et je ne mangeais pas beaucoup de cornflakes. Hein, à la surprise de personne, je mangeais des petits déjeuners très équilibrés avec une boisson chaude. Il faut toujours commencer par la boisson chaude car le corps vient de se réveiller et qu'il faut rompre le jeûne par une boisson à la température du corps. Ensuite, un produit...
Donc chaude mais pas brûlante.
Voilà. Sinon...
Mais attends, mais quand t'étais gamin, c'était quoi ta boisson chaude? Parce que
moi,
j'imagine que t'étais pas au café à 9 ans, quoi.
C'était le chocolat chaud.
Avec du lait de vache?
Avec du lait de vache, oui, parce que ma mère est omnivore et pas du tout végane et pas prête de l'être. Et du coup, elle adore le lait de vache. Et donc, oui, j'ai grandi en mangeant plutôt des flocons d'avoine, le Quaker... la marque Quaker.
Pas un placement de produit. Les trucs de personnes qui veulent être en bonne santé et avoir un bon transit, quoi.
Ouais, ouais.
C'est l'option saine du rayon céréales industrielles.
Exactement. C'est le truc le moins fun qui soit. C'est les flocons d'avoine avec de l'eau, un fruit.
Pas du lait avec de l'eau, quoi.
Sans sucre? Sans rien.
Avec des fruits? Les sucres des fruits?
Un peu de cannelle.
Mais franchement, c'est délicieux. Enfin, oui, cannelle et noix de muscade, oui. Mais
ah,
je crois que
ça va.
Je crois que j'ai déjà raconté dans LMK à quel point j'adorais le porridge.
Oui, moi aussi, j'adore le porridge. C'est arrivé après mes 20 ans, quoi.
Quand j'étais enfant, j'étais pas porridge. Bon, voilà.
Non, mais pour répondre à la question, quand j'avais le loisir d'avoir le droit à des cornflakes industriels, eh bien, je mangeais des Miel Pops. J'ai eu un gros trou de mémoire, mais j'ai trouvé ça délicieux, infâmement sucré, mais vraiment.
Mais tu m'étonnes, la dose de sucre que ça devait te filer à toi qui n'étais pas habitué à. Enfin, si pour toi le sucre, c'est. Il y a des tranches de pommes dans mon porridge de Quaker.
Ouais.
Les Miel Pops, ça doit être.
Ouais, j'étais là, genre, waouh, ça croustille, et après ça fond dans la bouche. J'étais là, genre, mais c'est incroyable, et j'adore.
Ça sucre le lait en plus, tellement il y a du sucre dedans.
Ouais, c'est incroyable.
Mais c'était pas un petit déjeuner, c'était un appel à l'aide en vérité. Enfin, tu peux pas donner
les
ça à un enfant et dire bonne journée.
Non, mais c'est très bon les Miel Pops.
Le truc avant, là.
Le porridge?
Ouais, la brique.
En vrai, il vaut mieux donner du porridge avec une pomme à un enfant que lui filer des Miel Pops en termes de nutrition et tout, tu vois.
Mais moi, c'est la santé mentale qui compte.
Peut-être d'aventure gustative, Mathis. Peut-être que c'est ça qui ouvre les papilles à autant.
J'ai trop entendu le mot gustative dans ce podcast, j'ai envie de partir de rage quit.
Ça fait deux fois, c'est que le début. On est à l'intro.
Je suis trop mauvais en marketing pour me rendre compte, mais. Je me dis que faire adopter un geste alimentaire à des enfants, c'est le meilleur moyen de les fidéliser pour la vie. Et que du coup, les industriels qui ont inventé les cornflakes doivent avoir énormément d'argent.
Mais tu sais que le mec de Kellogg's, Monsieur Kellogg's, il est... En fait, c'est lui... Alors, vraiment, genre, on dirait que j'ai 50% des infos, mais cette info est vérifiée, ok.
C'est Patrick Kellogg's.
Non, c'est Jean-Michel Kellogg's, il s'appelait vraiment, je crois, Monsieur Kellogg. Et parce que Kellogg's, c'est les céréales de Monsieur Kellogg, du coup, et c'est un Américain. Et en fait, c'est lui qui a instauré l'idée de le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, déjà. Et il était full anti-masturbation. Et il était perçu... Ouais, parce qu'il pensait que
même
la masturbation, ça corrompt la jeunesse et tout. Et il pensait notamment, je crois, qu'un petit déjeuner et tout, ça... Enfin, en gros, ça limite la tentation de se masturber. Donc, il y a tout un lien, normalement, entre les Kellogg's et la masturbation, notamment des jeunes garçons. Voilà.
J'ai tellement de contre-exemples en tête.
Oui, je ne pense pas que c'est scientifiquement vérifié. Je ne pense pas qu'il y a moins de masturbation chez les adolescents et préadolescentes qu'avant l'invention des Kellogg's. Mais en tout cas, il s'est battu pour ses convictions.
C'est vrai.
Ok, j'étais pas du tout prêt à ce rapprochement. Je suis hyper choqué. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait découvert qu'on pouvait faire souffler des céréales et qui s'est dit waouh, je vais les vendre à des enfants. Comme ça, ils vont en acheter toute leur vie.
Bah, c'était à la fois évidemment très capitaliste, ce qu'il a fait dans sa vie, puisque c'est quand même Kellogg's à la fin, mais il y avait un vrai truc idéologique derrière, tu vois, de il faut sauver la jeunesse des travers, évidemment, full chrétien, donc des travers du péché, quoi.
Okay.
Du profit, grâce à des Miel Pops.
Du profit des traumas, les États-Unis en une phrase.
Mais oui.
Et un peu de religion, saupoudré comme ça.
J'ai oublié de dire que mon autre petit déjeuner préféré, lorsque ce n'est pas du porridge ou des Miel Pops, c'est juste des tranches de pain de mie avec du beurre de miel. Mais c'est vraiment genre délicieux.
Non, mais ça, oui,
genre, c'est sous-côté.
Du bon pain de mie et du bon beurre, on est bien sûr pas
et
de vous.
C'est, c'est pas cher en plus, enfin, c'est pas très cher. Maintenant, le beurre, ça coûte une fortune.
Tout se perd.
Ouais, tout se perd, vraiment l'inflation dans nos assiettes, quoi. Mais, et partout, d'ailleurs. Mais oui, donc, pour répondre à la question directement, les Miel Pops sont mes céréales préférées, du côté industriel.
Merci, Anthony. Ça fait 2 sur 4, il n'y a toujours pas de team Chocapic. On est un peu, finalement, les sapios des céréales, quoi. Enfin, pour moi, les Chocapic, c'est les...
C'est ce qui fait un...
Oui.
Ouais.
Oui, alors Anthony est en train d'essayer de mimer une forme de pétale de Chocapic avec sa main, ce qui fait un genre de parenthèse, c'est ça, c'est les petites pétales, entre guillemets, de maïs, entre guillemets, au chocolat, entre guillemets.
Ah, c'était du maïs
oui. Je crois que la... Non, ou de blé. De blé, peut-être, mais bon.
C'est des céréales de Basic Beach.
Mais déjà, je trouve que
entre
si
la
peux pas reconnaître le...
Et le produit fini, on a beaucoup d'étapes qui font qu'on n'est pas sûr de la céréale que c'est.
C'est un produit ultra transformé, quoi. Enfin,
en plus, oui, bien sûr.
Si tu souffles tes céréales, l'indice glycémique, il explose. Donc, tu les digères hyper vite. Et donc, à 10h, t'as refaim. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est
oui.
une aberration.
Et du coup, tu peux remanger une mini boîte de Miel Pops. Pour la collation, c'est le but. It's a design. Ariane,
eh ben, je vais encore vous décevoir parce que moi, comme Anthony Vincent,
moi c'était bœuf bourguignon le matin comme
c'est...
tout le monde quoi. Rappelons alors... que tu es un peu notre Isabelle 42 ans de ce podcast maintenant, alors tu es la personne légalement et physiquement la plus jeune de cette équipe de très loin.
Non.
Non, on a le même âge avec
toi. Non, c'est moi je crois.
Putain.
Ah oui, c'est
ah, oui,
non
pardon,
non, c'est
à part
oui,
les gens.
Oui, c'est Anthony Vincent.
Sont des 2002.
Qui a, oui, qui est 2002.
Ouais, moi c'est Miel Pops hein. C'est Miel Pops,
ah, c'est
lait chaud. Et alors...
Ah, ça va, je croyais que t'allais dire. Nous, on avait du pain de campagne et du fromage de la daronne. Tu vois.
Mais ça les ramollit, le lait chaud.
Et attends.
C'est l'intérêt.
Exactement.
Ah, oh, vous êtes fou.
Moi, je les mettais dans l'eau, pas du tout, dans le lait chaud. Ensuite, j'attendais bien 5 minutes pour que ce soit bien mou.
Tu
c'est
te faisais
à ce
ton
porridge le déguste.
Avec tout le sucre.
De la mousseline de sucre.
Ignoble.
C'est le bon terme, mousseline. Tu sais, bravo Mathis pour cette réflexion culinaire très aboutie.
Je vous en prie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à ne pas me consulter.
Gustatif, mais aussi de texture. Je pense que c'est très purée mousseline, plus que juste truc qui était avant croustillant et qui est maintenant mou, tu vois.
Mollet.
Bravo. Comme un œuf.
Oui.
Putain. J'aime globalement les trucs mous. Hein. Je suis très team à tremper les aliments et tout.
Et ben, on a notre petite ouais,
débat. Voilà,
c'est
le petit débat.
J'aime les trucs mous.
Mais je pense que... Enfin, j'aimerais trop savoir le chemin neurologique qu'emprunte notre cerveau quand on mange des trucs croustillants, quand il y a le contraste de texture comme ça, mais c'est
croustillant.
Genre...
C'est incroyable pour le cerveau, il est là. Ah, trop bien, il se passe plein de trucs. Et moi, je suis vraiment dans la team, genre les repas où il n'y a qu'une seule texture, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas des soupes hyper mixées ni rien. Genre, je laisse toujours des morceaux où je mets des croûtons ou quoi, parce que sinon, je suis là.
Ah non.
On se fait chier, même s'il y a des saveurs, il ne se passe rien.
C'est
pas cool.
Ma phobie, c'est la soupe, ouais.
Moi, je te ferais des purées bien mixées, si tu veux, qu'est-ce que je te dise.
Typiquement, toute mon enfance, c'était hurler quand le yaourt avait des morceaux. Quoi. J'étais vraiment en comment ? Scandale ! Est-ce un yaourt ou des morceaux ? Et souvent, c'était
décidez-vous ! Petite sensorialité, quoi.
Est-ce que c'est les nuls qui avaient fait une parodie de la pub panier de Yoplait en mettant des vrais morceaux de panier dedans ? Et tu sais, c'est des paniers en osier, genre, tu vois, j'ai... Ah.
Panier de Yoplait. Avec de véritables morceaux de panier. Panier de Yoplait. Et bientôt, découvrez le tout nouveau caddie de Yoplait. Avec de vrais morceaux de caddie.
Alors,
je sais pas si
non,
c'est les nuls.
Je suis trop jeune pour avoir la ref. Désolé.
Anthony est bien sûr trop jeune pour avoir la ref. Ariane aussi. Moi, j'ai l'âge adéquat, mais je n'étais pas une les nuls family, j'étais une inconnue family.
Ah, moi aussi.
Je peux néanmoins noter que la vanne est très drôle.
Problématique.
Bon, les nuls aussi. Hein. Franchement,
oui.
L'humour des années 90, mon gars,
oui,
la collée
aussi,
française.
Très problématique. Hein.
Oui, il était quand même globalement problématique. Moi, j'ai une petite Madeleine de Proust, comme je suis un peu plus vieille que vous, les kids, notamment Anthony Vincent, je me suis souvenue que j'adorais une céréale qui n'existe plus, qui a été retirée du marché à la fin des années 90, qui était une céréale Kellogg's, qui s'appelait les Kix. Les Kix, c'était un requin, l'emblème, la mascotte,
ah,
un
oui.
peu comme le tigre de... Ça, tu dis si je te fais chier.
Le mec
moi,
a baillé dans le
café,
micro.
Si tu
mais...
veux, je t'en fais un, il n'y a pas de problème. Hein.
Tu bois du café à cette heure-ci ?
Ouais, parce que je suis éclatée de fatigue, mais... Mon kiff sera la raison pour laquelle je suis fatiguée. Donc, vous l'aurez chez vous. Et pas ma nouvelle coupe de cheveux qui est formidable.
Formidable. Très canon.
Mais peu radiophonique et podcast friendly, donc je voilà, suivez-moi sur Instagram pour voir à quel point je suis BG, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc les Kicks, il y avait un requin en mascotte, et en gros c'était genre des mini miel pops. Imagine un rectangle formé de 3 mini miel pops collés à 3 mini miel pops, et du coup ça a fait comme un Lego, tu vois les Lego avec 6 trucs dessus, bah c'est pareil. Donc c'était deux petites colonnes de mini miel pops collées, et tu foutais ça évidemment dans du lait, et du coup il y avait encore plus de croustilles fondants, parce que 6 mini miel pops au lieu d'un gros miel pops, ça fait autant de textures où il y a des endroits qui vont rester croustillés, des endroits qui vont devenir fondants et tout. C'était pas mal, tu vois. Et je sais pas pourquoi ça a été discontinued, mais ça ne devait pas assez performer face à la concurrence des miel pops et des Frosties, I guess.
Ça va être super cher de thermoformer tout ça, en fait. Enfin...
Aussi, oui. Je pense que c'est plus rentable de faire juste des miel pops que des Kicks. Encore une question de rentabilité. Mais sinon, du coup, ma vraie drogue, c'était les Smacks Trésors. Genre, je trouve qu'il y a un côté crack de fou dans les Smacks Trésors, même maintenant, alors que. Déjà, je suis adulte et aussi, je mange pas de sucré. Mais si on me fout des Smacks Trésors sous le nez, y a... et même pas genre sans lait, je les mange comme des chips, dans, je sais pas, pas le chocolat à l'intérieur qui n'a pas d'intérêt, mais dans l'enrobage, donc on dirait des petits
Est-ce
oreillers.
Est-ce que c'est les cracottes avec à l'intérieur du chocolat ?
Non, on dirait, donc ça a la taille d'un gros Chocapic, on va dire. Un gros Chocapic. Non, ça, la taille d'une petite raviole, en gros. C'est comme ça, quoi. C'est, je sais pas la taille. Hein. Demi-pouce, demi-mi, j'ai des petits doigts. Et c'est carré et c'est un petit peu en forme d'oreiller. Et en gros, à l'extérieur, c'est du blé soufflé comme les miel pops, mais moins sucré, j'ai envie de dire. Et dedans, il y a du chocolat. Du coup, t'es censé le foutre dans du lait. Et l'extérieur, il est croustillant, semi-fondant à cause du lait. Et en plus, dedans, t'as le cœur au chocolat. Donc, c'est genre du sucre sur du sucre sur du sucre. Et je pense qu'il y a 2% de teneur en cacao. Il y a très peu de vrai chocolat, évidemment, dedans. Mais l'enrobage, il me rend ma boule. Genre, c'est la même sensation que quand tu manges un curly. Et que t'as trop de niveau de croustillant. Et que du coup, tu peux pas t'arrêter. Et t'es obligé d'en manger 98. Mais en sucré, quoi. C'est vraiment la drogue, les Smacks Trésors.
Mais attends, j'ai un trou de mémoire. Il y avait pas une céréale qui avait un nom de fauve?
Lyon.
Les lions.
C'était chocolat caramel, c'est ça?
Ouais,
les lions.
J'aime pas le caramel, donc forcément, c'était pas ma religion, quoi.
Il y avait une sous-marque qui faisait des lions encore plus caramélisés, c'était très bon.
Plus de sucre dans votre sucre, oh, oui, avec des céréales en dessous, loin, en bas.
J'aimerais faire ma daronne et rappeler l'importance de commencer par une boisson chaude, ensuite d'avoir un produit riche en calcium, une céréale complète de préférence, et un fruit frais de préférence, voilà, afin d'avoir un petit déjeuner équilibré. Et ne vous forcez pas à manger le matin, si vous n'avez pas faim, c'est ok.
Mais arrête de pousser les gens
aussi
à vivre plus longtemps,
clairement,
c'est horrible.
Maintenant que je suis une personne adulte qui choisit mes heures de vie et de repas, je ne mange pas le matin car juste mon estomac n'est pas réveillé et ça ne m'empêche pas de vivre ma baisse vie. Donc le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, contrairement aux prétentions de Monsieur Kellogg's qui en plus est contre la branlette. Donc on le dit, voilà, finalement,
la prison.
On adore la branlette dans ce podcast. Bon.
C'est vrai.
Merci à Audrey pour cette question. Je rappelle du coup que vous pouvez toujours m'envoyer ou envoyer au compte Laisse-moi kiffer, car Mathis me les fera passer des idées de questions, questionnaires de Proust auxquelles vous aimeriez qu'on réponde dans le début de ce podcast. C'est l'heure de passer aux commentaires. Mathis,
oui.
Est-ce que tu as un commentaire ?
Oui, cette question était extrêmement longue.
Je pensais que tu ferais un autre oui en mi-question. Je pensais qu'on s'était compris, mais non.
Non.
On n'a pas répété.
Non. C'est un commentaire de Blanche de Gaulle qui n'a certainement rien à voir avec le général.
La femme d'eux ?
Oh, détrompe-toi peut-être. Hein.
Ah.
Attends.
Si j'étais la petite fille ou l'arrière-petite nièce du général de Gaulle, je pense que je m'appellerais de Gaulle parce que je serais là. Qui va croire que je suis une vraie, tu vois, personne ?
C'est hyper chelou pour lui de s'appeler comme un aéroport. Du coup, Blanche de Gaulle me dit « Hello, je t'écris car je suis en train d'écouter le LMK saison 6 épisode 13. »
Très précis.
Oui. Et que je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Et maybe être une anecdote de star. Ah, pardon, j'avais pas vu ça. Bon, bah, du coup, d'une pierre deux coups, hein, désolé. Bref, je suis comédienne et récemment, j'ai eu l'occasion d'aller à la Comédie Saint-Étienne. J'aime beaucoup cette salle. Et j'y ai vu Othello, donc le Othello que j'ai vu. Et j'ai rencontré Adama Diop, donc celui qui jouait Othello dans la mise en scène de Jean-François Civadier que j'ai vu. Bon, parce que je n'ai pas osé lui poser de questions, mais heureusement j'étais avec une vingtaine d'autres personnes qui lui ont pas mal posé la question du racisme, et il nous a dit à quel point ça avait été dur pour lui d'assumer ce rôle et qu'il avait fait un travail de mettre en lumière parfois les autres comédiens, comédiennes, et montrer le racisme dans les répliques. Merci pour Dramatis, le monde avait besoin de ce podcast, et bisous toute l'équipe de LMK, c'est très mignon, et je découvre le commentaire, c'est pour ça que je bute sur chaque mot, et ça et le fait que je ne sais pas lire, voilà.
C'est dommage pour ton travail qui est parfois de lire des commentaires, mais plus de parler dans des micros, donc ça va.
C'est vrai.
Tu as bien choisi.
Je peux dire n'importe quoi, tout va bien.
Donc c'est un commentaire anecdote de star et référence à un de tes derniers kiffs. Franchement, triplette gagnant.
C'est vrai.
Bravo, merci. Anthony Vincent.
Oui, il y a un commentaire qui vient de tomber et je trouve ça formidable,
amazing,
le timing. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens, si vous pensez à ma mémoire de poisson rouge, envoyez des commentaires à Anthony VNCT, Anthony avec un H, A-N-T-H ou A-N-Y-V-N-C-T, à 16h30.
Le jeudi vers 16h15, 16h30, c'est un bon moment pour envoyer à Anthony
formidable.
Vos retours. Parce
voilà, s'il vous plaît.
Que c'est peut-être à 16h45 le jeudi qu'on tourne.
Sinon, j'oublie, je les retrouve pas facilement et tout. Mais là,
moi, ma technique, c'est que je fais un screen et du coup, ça se met automatiquement dans mon album capture d'écran de l'iPhone. Et du coup, bah, dès que j'ai besoin d'un commentaire, je remonte mon album capture d'écran parce que si je remonte mon album photo global, il y a trop de
autre
chose. Non, très peu de nudes dans ma vie. Beaucoup de photos de mon chat. Hein. Des nudes de mon chat, le bide à l'air comme une chagasse, mais je suis pas dans la nude énergie.
Les chats, c'est chagasse.
Ne fais pas ce jeu de mots.
Eh bien, j'ai un super commentaire, hyper intéressant, de Marceline Van Boom Boom. Vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires débiles, les gens. Hein. Je ne discrimine pas les commentaires.
Bravo pour ce hâte, Marceline Van Boom Boom.
Je trouve ça génialissime. J'adore cette personne. je cite. Hello Anthony, merci pour tes recommandations dans LMK, je vais me précipiter sur le documentaire sur France 5. Pour rebondir sur le fait de lire du théâtre, j'ai moi-même fait des études de théâtre et je ne trouve que des points positifs au fait de lire des pièces. Tout d'abord, ça nous permet d'avoir accès à une œuvre sans attendre qu'elle soit mise en scène et accessible. Ça dédramatise également la timidité des personnes qui ne se sentiraient pas à leur place dans une salle de théâtre, car cela reste un événement social, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, cela nous apprend qu'il n'existe pas un seul point de vue sur un texte. En le lisant, nous devenons chacun interprète et metteur en scène. C'est très riche. Je fais une petite pause dans ce commentaire qui est brillantissime et très bien séparé en paragraphes. Vraiment, j'adore. C'est un plaisir à la lecture. Pour dire que.
Donc, envoyez des commentaires débiles à Anthony, mais soignez la mise en page quand même. On n'est pas des bêtes. Sautez des lignes,
voilà.
Mettez de la ponctuation,
voilà,
quoi.
S'il vous plaît. Pensez à mes petits yeux.
L'homme est auteur, finalement.
Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est trop beau comme image. Effectivement, oui, on devient interprète et metteur en scène quand on lit dans nos têtes des pièces de théâtre ou même des romans ou d'autres choses encore. Et ça stimule l'imagination, ouais, c'est génial. Je reprends la lecture. Et enfin, cela nous apprend qu'il n'existe pas un seul point de vue sur un texte. Non, pardon, ça, c'est ce que je viens de lire. Et petit clin d'œil à Mimi, ce sont également des textes qu'on peut se lire les uns aux autres. Et entendre les mots résonner leur donne souvent une nouvelle couleur, un nouveau sens, une nouvelle nécessité. Passe une belle journée. Voilà, merci beaucoup Marceline Van Boom Boom pour ce commentaire.
Oui.
Très très lyrique et très intéressant avec plein d'arguments, vraiment lisez si vous le voulez et si vous le pouvez, c'est super.
N'hésitez pas du coup à m'envoyer en DM @mymygl sur Instagram les pièces de théâtre que vous estimez être les meilleures à lire à une personne qu'on aime à voix haute ou à se lire mutuellement avec une personne qu'on aime. C'est pas forcément des trucs avec des sujets romantiques, mais du coup pour moi il faut que ça soit pas trop long déjà de base, parce que si c'est un... Enfin, je sais pas s'il y a des pièces de théâtre qui font genre 300 pages, mais je me dis que c'est long à se lire et qu'on perd le fil.
Tout existe.
Voilà, il doit y avoir des trucs assez longs. Et alors moi, je sais que quand je lis des livres à voix haute, je suis pas vraiment dans une démarche d'acting. Genre, je vais mettre un peu d'intonation dans les dialogues, mais je vais pas jouer des personnages divers et variés, quoi. Je suis pas comédienne. Donc peut-être un truc avec pas 1200 personnages à l'identité hyper marquée, parce qu'après on se perd. Mais en vrai, oui, je pense que lire un petit huis clos avec quelqu'un qu'on aime, ça doit être sympa. Peut-être pas très feel good, car Sartre, ça l'est rarement, mais sympa. J'ai cité
d'autres
la seule pièce de
Sartre,
théâtre,
oui,
que je me souviens avoir vue sur scène dans ma vie avec Cyrano de Bergerac. Voilà. Merci Anthony pour ce commentaire très bien mis en page. Ariane, est-ce que tu as eu des commentaires sur ton premier passage ?
Bien sûr que non, puisque
l'épisode
n'est pas en ligne.
Mais scandale quand même ! Les LM Crado, vous pourriez prendre un peu d'avance, s'il vous plaît, et écrire à Ariane que vous ne connaissez pas pour lui dire c'était super ta prestation dans LMK que je n'ai pas encore écouté.
J'attends.
Désolé.
On attend.
On a pris trop d'avance dans les épisodes, ce qui fait qu'on est prêt jusqu'en... Là, vous écoutez peut-être ça en 2027, on ne sait pas.
Ah bah, tenez-nous au courant de ce qui se passe, parce que pour nous, c'est déjà la hesse. J'espère qu'en 2027, ça va mieux. Et que, attends, les élections, c'était 2022. Eh ben, et que j'espère que vous avez élu la gauche, hein. Là, on est en avril
Lionel
maintenant,
Jospin.
Donc si on est en avril 2027, j'espère que vous avez élu Lionel Jospin ou autre représentant ou représentante, qui sait, de la gauche à la présidentielle, bien sûr.
Lionel Le Jospin,
la fille de... Non, rien à voir, pas un épo baby.
Rien à voir, non.
Elle s'est faite toute seule, c'est juste un... Elle s'appelle aussi Lionel Jospin.
Je crois qu'il y a la fille de Lionel Jospin qui s'appelle Eva Jospin, qui est une superbe artiste. J'adore son travail.
Ah,
bravo elle. J'espère qu'un jour sera ton kiff. Voir l'invité de Laisse-moi kiffer, on ne sait pas. J'ai un commentaire très bref de Emoji zèbre, l'eau, emoji clown, des choix que j'aime bien. Lorenza, qui, si je ne m'abuse, a un très beau bob sur sa pépé, à moins que ce... Ah non, pardon, c'est un cône de chantier.
C'est
non, j'allais dire à moins que ce soit un abat-jour, mais après j'ai regardé, j'ai vu vraiment des bandes orange et jaune, et blanche, pardon, donc c'est un cône de chantier. Lorenza m'écrit tout simplement « Incognito, meilleur film », là où le weebooling en slip, c'est juste iconique, c'est devenu mon projet de vie en fait. Et Lorenza a raison. Je rappelle qu'Incognito est un film avec Benabar et Franck Dubosc, que peut-être trop peu de gens ont vu, qui est très bien. Non mais Kalindi me shame alors qu'on est dans la Fatal Family toutes les deux, mais Incognito elle a décidé que non. Je rappelle qu'Incognito est un banger. J'ai envoyé ce commentaire à ma petite sœur qui est fan d'Incognito aussi, elle m'a dit précision, pendant la scène du weebooling, Franck Dubosc n'est pas en slip, il n'a pas de slip, c'est bien. Justement, tu n'as bien qu'un frigo, on vous en a déjà parlé.
Oui.
Putain, on avance hyper vite sur cette intro, c'est fou. Du coup, on va s'autoriser, en plus de l'anecbof de Star qui était un peu contenue dans le commentaire, une petite vie de bolos.
Bien sûr.
Et puis après, on passera au kiff, c'est fou.
Petite vie de bolos que j'ai déjà sous les yeux, donc c'est pratique, ça va m'éviter de meubler en disant des choses
absurdes. C'est pas grave,
je
peux meubler, parce que du coup, pour vous raconter pourquoi on fait un épisode peut-être un poilito efficace cette session par rapport à d'habitude, on va peut-être un petit peu moins digresser pendant deux heures, car Mathis et moi, en tout cas, donc la moitié de cette équipe, on sort d'un live qu'on a diffusé hier pour Laisse-moi kiffer, qui a duré pas hyper loin de 3 heures, je crois qu'on était à bien 2 heures et demie.
Oui, on a 2h30.
Ouais. Il y avait Kalindi, il y avait Alix, c'était super. On a parlé de lampe en forme de sac de billes ou l'inverse, je ne sais plus. C'était très bien, mais du coup, on a déjà bien causé et on s'est dit qu'on s'était peut-être un petit peu perdu en termes de timing.
Et puis, on n'a plus rien à dire, quoi. C'est...
On n'a plus rien à se raconter, voilà. On
c'est censé durer combien de temps, le live?
En vrai, le live, comme il y a mini-kiff et gros-kiff, pour moi, on est censé être sur 2 heures. Mais comme les épisodes normaux durent déjà un peu plus d'une heure, et que quand il y a Kalindi et Alix dans la même pièce, le temps est une construction sociale finalement.
C'est vrai.
Donc, 2h30, 3h, c'est un bon live quoi.
Ok.
Alors, je crois pas l'avoir lu, une vie de bolos de Emma, qui dit: cher LMK, j'entends que vous êtes en rade de vie de bolos, aussitôt dit, aussitôt fait, en voilà une. Donc,
n'hésitez pas à être des bolos afin de vous raconter vos anecdotes.
C'est vrai. Cette histoire se passe il y a environ un an et demi, en plein hiver allemand, où il fait nuit à 16h, sous fond de carence de vitamine D et petite déprime hivernale. Mon cours de composition a lieu le jeudi soir en toute fin de journée. La semaine est un peu stressante, je suis fatigué, j'ai du temps avant ce fameux cours et je décide de rentrer chez moi une heure pour me reposer. Allongé dans mon lit, je me dis qu'une petite branlette me ferait le plus grand bien, pense à Kellogg's.
Hâte monsieur Kellogg, tout à fait.
Et elle nous dit: ellipse temporelle, je suis en cours de composition, écarte les jambes car le woman spreading c'est super. Bref, tout se passe pour le mieux. Je rentre chez moi après le cours et découvre mi-horrifié, mi-morte de rire que tout le monde a pu apprécier les motifs de la culotte que je portais en dessous. Voilà, bisous à vous. Vous n'êtes
attends,
pas...
attends, Mathis, j'ai rien compris.
Mais
la
attendez,
personne,
j'ai pas
elle
plus
a une jupe,
que vous, hein.
Elle
moi, je lis,
s'est
hein.
branlée en cours, elle a un trou dans son pantalon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde a vu son slip? C'est très confus. Peut-être
qu'elle a... Voilà, bisous à vous.
Peut-être qu'elle a une petite éjaculation qui a rendu sa culotte, son pantalon transparent.
Peut-être, ma braguette était ouverte tout ce temps-là, j'ai obligé de la fermer après m'être fait plaisir. Voilà, attends. Vous m'interrompez avant que j'ai fini.
Mais non, mais il faut mais que tu relises depuis le début parce que là, je suis perdue.
Non.
Si.
Non.
Si.
Elle s'est branlée chez elle. Après, elle a eu son cours. Elle a
la braguette ouverte.
Elle a woman spreadé avec sa braguette ouverte. J'ai oublié de la fermer après m'être fait plaisir avec la coupe de mon pantalon. Impossible de ne pas rater ce détail et donc de ne pas apprécier les petits motifs de ma culotte.
Après, c'est pas bien grave. Enfin,
c'est pas
très grave. J'ai envie
c'est
de vous dire
bolos, hein.
Que dans les derniers défilés de mode dernièrement, cette dernière saison, on a pu voir réapparaître sur les podiums le sagging qui consiste à laisser dépasser ses sous-vêtements. Et en fait, on peut le faire
le
de manière plus ou moins.
Le string qui dépasse, le boxeur qui dépasse,
exactement.
Tout ça.
Et on peut le faire de manière plus ou moins évidente, délibérée et créative. Ça peut être juste effectivement le string qui dépasse ou le caleçon qui dépasse ou l'élastique d'un boxer. Ou alors de façon beaucoup plus créative, en gardant sa braguette grande ouverte et son pantalon grand ouvert sur un deuxième pantalon ou sur un caleçon qu'on aura évidemment choisi en fonction.
J'ai vu ça dans, parce que je suis très cultivée, j'ai vu ça dans Perfect Match, la télé-réalité de Netflix qui est la genre Avengers de toutes les télé-réalités éclatées de Netflix, où c'est que du coup des meufs et des gars qui traînent en bikini, en maillot de bain toute la journée dans des villas somptueuses en prétendant essayer de trouver l'amour. Et il y avait une go, elle s'est dit, je vais mettre un bikini frais, tu vois, normal. Et j'étais là, normal, fais ça. Mais après, elle s'est dit, mais j'ai quand même un peu envie d'être habillée parce que je peux pas traîner en micro-bikini. Et à chaque fois vraiment que je vois ces meufs, je suis là, t'as quand même la foi avec ce bikini. Il y a no slut shaming dans ce que je dis, mais c'est juste que moi, je serais perpétuellement consciente de, il y a les caméras de Netflix sur moi et vraiment, t'éternues du mauvais côté, on va voir ta chatte ou ton téton. Enfin, il y a vraiment très peu de tissu, donc il faut avoir la foi dans ces bikinis, donc bravo à elle.
La foi ou des antihistaminiques.
Mais même, tu vois, genre, je sais pas, tu trébuches. Peut-être tu es maladroite, vrai, comme vrai, moi, ça arrive. Et c'est aussi des émissions où ça picole un petit peu, quoi. Bon. Et la go s'est dit, je vais mettre un petit bikini. Et elle s'est dit, je vais quand même mettre un jean. Mais du coup, on verra pas que mon petit bikini, il est sexy. Donc, elle a ouvert en grand son jean et elle a retroussé les pans de son jean sur les hanches. Mais du coup, bah, comme son jean, il est pas spécialement fait pour ça. Genre, il pendouillait toute la journée et elle passe sa vie dès qu'elle se levait et qu'elle marchait à le retenir et à le remonter. J'étais la girl, ferme ton jean, c'est choisis, pas grave. On voit que t'es bonne, y a pas de problème. Mais choisis, tu n'es pas à l'aise. Et deux épisodes après, il y a une autre meuf qui était un peu la reine, la queen bee de la villa, qui a fait pareil. J'étais là, hein, ça copie, hein. Je vois que ça copie les idées, voilà.
Ça me rappelle une anecdote tragique que je vais raconter de manière très courte. J'ai fait du sagging malgré moi quand j'étais en CE1 parce que j'avais un pantalon très large. Enfin, en fait, j'ai toujours été une... Comment on dit, une tige ?
Brindille.
Brindille, voilà. Un fuseau. Fusain ?
Fusion. Un fuseau. Un fusain, c'est pour dessiner. Un roseau.
Un roseau. Mathis,
un
roseau.
Bambou.
Super.
Bref, vous l'avez, quoi.
Et du coup, enfin bref, je perdais mon fut, quoi.
Mathis Roseau, putain, je l'ai même pas eu.
Oui, bah vous l'aurez après, qu'on enchaîne un peu. et du coup, j'avais un caleçon dont j'étais pas particulièrement fier ce jour-là. Enfin, encore que ce que j'étais fier de mes caleçons, c'est un je ne sais pas, grande question.
Est-ce
et
que tu l'es actuellement ? Est-ce que tu dirais qu'en 2023, tu es fier de tes caleçons ?
J'ai mes journées avec et mes journées sans. Voilà.
Très bien.
C'est comme ça, il faut que j'en achète des nouveaux. Voilà, vous saurez tout. Vous savez beaucoup trop de choses.
Sans caleçon ou sans caleçon que t'aimes bien ?
De quoi, des journées sans ? Ah non, des journées sans caleçon que j'aime bien.
Okay, non, mais avec caleçon, mais pas un truc que t'aimes bien. Mais
c'est des gens qui font du pas Colombo, du Corando, du Commando.
Oui,
pourquoi on arrive
commando,
à trouver nos mots, c'est terrible.
Quand on dit I'm going commando, ça veut dire qu'on ne porte pas de sous-vêtements.
Ouais.
En tout cas, pas de sous-vêtements du bas.
Alors.
Mais ça dépend quel pantalon tu portes. Par exemple, le pantalon que je porte actuellement, et ben, j'aurais pu ne pas mettre de sous-vêtements. Et généralement, j'ai des strings de danse pour ce pantalon. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai mis un sous-vêtement. Hein, voilà.
Tout motif formation.
Se voit, quoi. quoi?
Tout motif formation.
Pardon, si c'est moi.
Personne n'est mon collègue.
Bah oui, peut-être parce que vous êtes collègue et vous travaillez ensemble.
Non,
moi, je suis là,
non mais j'ai un pantalon.
Je plaisante.
T'as un pantalon et un sous-vêtement. Ça va, c'est bon. C'est bon.
Mais avec ce pantalon, il m'arrive aussi de le porter ouvert, car c'est un pantalon à pompe qui remonte très haut et qui est vraiment...
T'as pas coupé le... Si t'as baissé, remonte le bitonio dessus, ouais.
Voilà, super.
Désolé.
Formidable.
C'est un pantalon qui est très taille haute et ça m'arrive de le porter avec des bodys qui sont écrits sur les hanches. Et pour faire profiter la galerie, eh bien, je le porte complètement ouvert, en fait, le pantalon. Mais
j'ai un pantalon fermé un peu comme ça et j'avais jamais pensé à le porter ouvert. Voilà. Donc peut-être je vais faire la chouin cet été grâce à toi, Anthony Vincent.
De rien, de rien.
Anthony voilà. Vincent.
Vraiment le sous-vêtement apparent, tendance 2023.
Eh ben, j'ai fait la chouin avant vous en CE1. Non, et
ça, c'était moins drôle horrible.
En vrai, je me souviens que c'était vraiment humiliant de ouf et que du coup, toute la récré, j'avais demandé à ma prof à rentrer dans la classe parce que des filles se moquaient de moi et elle avait pas voulu.
Elle avait pas, je sais pas, une ceinture, un petit foulard, un truc à tenir autour du pantalon pour le tenir, quoi.
Des bretelles.
Mais je crois que c'est ça ma.
Avoir des bretelles dans notre salle de classe.
Ouais, de ouf.
Surtout à 8 ans, oui.
Mais c'est ça ma vilaine origin story en vrai. C'est là où tout a commencé.
Waouh, wow, ça vient
ah ouais, vous manquez de moi, et bah, je vais me grimer, et casser des choses.
Je vais me moquer de moi plus que vous, mais dans un podcast. Et les gens, ils disaient, ah, ok, c'est quoi un podcast? Ah, vous verrez. Je suis dans le turfu, ok. Mais donc, Anthony, tu confirmes en tant qu'expert mode qu'on n'est pas encore à avoir la braguette ouverte, c'est une tendance. Si on a que la braguette ouverte, c'est un oubli. Il faut ouvrir tout le pantalon pour être en mode, c'est dans la tendance. Ou est-ce qu'on a vu défiler des gens
être tendance
à la
en garde
Fashion
à vue,
Week
ouais.
Avec juste la braguette ouverte en mode. Eh ouais.
En fait, il y a une marque qui s'appelle GmbH, comme les SALS en France. Oui, une société anonyme.
Oui.
Enfin, c'est un statut.
Une SARL.
SARL.
Oui. Ouais, ok.
J'avais
responsabilité limitée. Société anonyme à responsabilité limitée.
Ça, ouais. Ça sent l'entrepreneuse, Mimi.
Écoute, ça, je le savais avant et je le sais vraiment pas pourquoi. Il faut croire qu'en licence, j'ai retenu un ou deux trucs de mes 3 ans de licence.
Eh bien, il y a une
tu
marque.
C'est du SARL. Pardon.
Ah. Waouh.
Il y a une marque allemande qui s'appelle GmbH. C'est un peu comme si en France, on avait une marque qui s'appelait SARL, quoi. Qui fait des pantalons avec double braguette. Et en fait, ils en ouvrent une sur deux. Et c'est assez stylé. Et depuis, d'autres marques ont essayé de faire
double
des
double braguette superposée, pas une à gauche,
non, une à
droite.
De l'autre. Une à gauche, une à droite.
Okay. Ah, et du coup, t'en ouvres une des deux. D'accord.
Mais il
bon,
y a aussi d'autres pantalons, d'autres marques qui font une fausse ceinture avec braguette, avec passant de ceinture. Et du coup, en fait, t'as l'impression d'avoir un jean sur un jean. Et du coup, le jean qui est à l'extérieur, la braguette est ouverte et le pantalon est déboutonné. Mmh. Et du coup, tu vois le deuxième jean qui est en dessous.
Le fameux jean à flelou. Okay. Mmh. Vous l'avez chez vous.
Oh là là.
Waouh. Je vais faire durer un peu cette intro alors qu'on était grave dans les temps, ça tombe hyper bien parce que j'ai une autre question pour toi, expert mode. Mais je travaille plus avec Anthony tous les jours donc je peux pas lui poser sur Slack toutes mes random questions mode comme je le faisais avant. Allez. Je pourrais te les poser en DM mais je viens d'y penser. Des fois, Instagram a l'air de se dire que j'aimerais posséder, parce qu'ils me le proposent en publication sponsorisée, un jean avec une braguette qui remonte jusqu'à littéralement l'arrière et qui peut s'ouvrir sur le cul du coup. Et je suis là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent et qui portent ça, ou est-ce que c'est vraiment juste Instagram qui me fait croire que oui?
Eh bien, ça, c'est un design qu'a fait notamment Glenn Martin chez White Project. White Project, Y/Project. Il a aussi fait une collection récemment pour Jean-Paul Gaultier. Et bref, ce genre de pantalon, c'est d'inspiration fétichiste, en vrai. Mais
oui, ça, de par d'autres visites que je fais sur Internet,
privée, je pense que Instagram le sait, connaît toutes autres visites.
Ah non, les cookies!
Et l'algo! Les cookies te poursuivent et te proposent des pantalons pratiques. Pour,
mais aussi des seins de raton laveur et des girolles. Donc je pense qu'Instagram a cerné toutes les nuances de complexes personne, de ma personne.
Qu'on parlait de céréales tout à l'heure. Vous savez maintenant que les cookies crispent.
Eh bien, j'ai une combinaison comme ça qui s'ouvre jusque derrière.
Je suis d'accord avec cette décision d'ignorer cette vanne. Ok.
C'était un déguisement de Catwoman pour Halloween qui peut être utilisé autrement. Et voilà. Et en fait,
qui peut être utilisé tous les jours de l'année qui ne sont pas le 31 octobre.
Et en fait, le zip commence au niveau de la glotte. Et non, c'était pas la glotte. Oui. Non, c'est pas la glotte.
La pomme d'Adam.
La pomme d'Adam.
Oui, bah la glotte, c'est pas loin, quoi.
De la glotte et le zip descend jusqu'à l'entrejambe et se poursuit jusque derrière jusqu'au coccyx. Voilà, c'est une longue fermeture éclair qui peut servir. Et elle s'ouvre des deux côtés. Donc en fait, on peut rester tiré à quatre épingles, enfin, avec la fermeture zippée jusqu'en haut sur le devant et ouverte derrière. Voilà, ça vous fait beaucoup d'informations. C'est peut-être dans ma story à la une sur Instagram d'ailleurs.
Avec ou sans sous-vêtements, du coup?
Oui, très bonne question.
Ça dépend, ça dépend où tu vas.
Ça dépend si c'est vraiment 31
octobre. J'aurais trop peur de coincer des trucs.
Si c'est les autres jours de l'année.
Eh bien, je crois.
Mais oui.
Quoi?
T'as pas peur de te coincer des trucs si t'es commando là-dedans?
C'est horrible.
Rapport au fait que t'as qui dépassent que moi je n'ai pas, tu vois.
Non, j'avais pas cette peur-là.
Et puis ça fait mal, hein.
Mais justement, récemment, j'avais une journée encore marathon où je crois que j'avais un cours de boxe, après j'avais une soirée roller, et après j'avais une soirée Halloween où il fallait venir déguiser. Et du coup, la soirée roller, elle était kids-friendly, donc j'allais pas venir en Catwoman full latex. Du coup, j'ai mis une combi stitch par-dessus la combi Catwoman.
Oh là là. Tu devais avoir si chaud.
J'avais tellement chaud.
T'étais en train de faire du roller avec une combi Catwoman latex près du corps et une combinaison dessus.
Oui.
Et c'est moi qui
après,
sais pas choisir.
Après un cours de boxe.
Vraiment.
Bravo.
Autant vous dire que c'était chaotique. Et d'ailleurs, Inès, qui travaille chez Mademoiselle, était là. Elle me voyait suer à grosses gouttes sur le dance floor de la Wheels and Feet, la soirée roller. Et après, je suis allé à ma soirée Halloween et j'ai enlevé ma combi stitch, j'avais une autre combi en dessous et c'était trop stylé.
Ouais. Comme le truc de Scooby-Doo en mode, oh non, c'est le même en dessous, sauf que non, c'est une combinaison sexy en
voilà.
dessous.
Mais le lendemain, j'ai réalisé que le zip avait craqué.
Et du coup,
je ne sais pas à quel moment. Donc, ça se trouve...
C'est l'heure de remonter la soirée en mode Agatha Christie, genre combien de ces personnes ont vu mon cul, je sais
mais
pas.
Justement, heureusement que je n'y étais pas commando et j'avais un sous-vêtement noir en dessous et donc personne n'y a peut-être vu que du feu.
Ce qui est quand même plus safe en soirée Halloween de prévoir un sous-vêtement sous son costume. On ne sait jamais ce qui peut arriver au costume, on ne sait jamais ce que les gens plus ou moins éméchés peuvent faire avec votre costume. Si vous êtes à poil en dessous, il peut y avoir des moments où vous allez révéler des parties de votre corps à des gens en soirée que vous n'aviez pas prévu, quoi. Merci pour cette très longue intro, finalement, et toutes ces recommandes. Merci beaucoup, Anthony Vincent, de répondre à mes questions.
Je voulais faire un petit disclaimer pour dire, en fait, je dis oui, la lingerie apparente, c'est fashion et tout, mais j'ai bien conscience du fait que le harcèlement sexuel existe et que c'est bien hyper sûr. Compliqué de faire ça. Et en fait, on peut pas s'habiller comme on veut. Hélas, ce n'est pas votre faute, c'est la faute des agresseurs, évidemment. Faites ce que vous pouvez. Hein, voilà.
Oui, bien sûr. Et si vous voulez cacher vos culottes string boxer ou autres sous-vêtements aux yeux du monde en portant des jeans taille haute pas ouverts, eh ben vous pouvez le faire aussi. La mode, finalement, c'est une recommandation et une inspiration. Ce n'est pas une obligation.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est l'heure de passer au sel de ce podcast, qui est déjà la pistache des podcasts, donc des pistaches salées. à savoir les kiffs, et c'est donc l'heure du jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure de lâcher vos kiffs.
Waouh, merci Valentin.
Mathis, c'est quoi ton kiff?
Eh ben, j'allais changer mon kiff tout à l'heure et en fait, je me rends compte que j'ai pas tant de choses à dire si je fais ça, mais je fais quand même un petit clin d'œil parce que pourquoi pas, c'était d'écouter de la techno quand je suis en colère, car j'étais en colère, je vais mieux. Je n'ai pas comme kiff d'écouter de la techno quand je suis en colère. J'ai néanmoins une playlist techno que vous pouvez écouter qui s'appelle « Raver sa vie ».
Ne rave pas ta vie, vite et rave. Putain.
Exactement.
Alors, legit, je vais noter cette phrase et en faire un t-shirt à mon mec. Alors, et comme ça, il va grave vouloir m'épouser parce que ça sera une pièce unique, putain.
Je trouve... N'hésite pas à me créditer quand tu voles mes blagues.
Non, je pense pas. Je pense
d'accord.
Pas que je vais faire ça.
Je comprends. Mon kiff, c'est un site que j'ai découvert par hasard, je crois, via Twitter il y a quelques semaines, qui s'appelle Queering the Map. Et en gros, c'est un site qui en fait prend la forme d'une carte, comme vous voyez là, avec beaucoup, beaucoup de petits trucs noirs dessus. Et les
beaucoup
petits trucs
points.
Noirs, en fait, c'est des histoires. Et en fait, c'est des histoires que n'importe qui peut mettre en ligne. Et je pense que c'est un minimum modéré, évidemment. Mais du coup, vous lisez les histoires de partout dans le monde et potentiellement à côté de chez vous. Et du coup, il y a des histoires de gens qui ont eu leur premier baiser, des gens qui se questionnent sur leur sexualité, des gens qui ont fait une transition. Et du coup, vous avez plein d'histoires queer. Et je trouve ça super chouette parce qu'évidemment, y a certains territoires où il y a beaucoup moins de petits pics. Mais quand il y en a, c'est des histoires parfois très politiques.
J'allais dire, là tu nous as montré du coup la map rapidement où on voit qu'en France et au Royaume-Uni par exemple il y a beaucoup 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 de points et en descendant vers le sud il me semble, bon tu nous l'as montré très vite, par exemple en Afrique et dans les pays du Maghreb il y a moins de points, ce qui s'explique aussi par le fait que selon la liberté des personnes LGBTQ dans les pays on a plus ou moins de facilité à raconter son histoire et même à la vivre tout simplement.
Exactement, et du coup vous avez des... Vous avez des histoires très courtes et des histoires très longues. Il y a un endroit où c'est juste marqué « Oh ». Je ne sais pas. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, il y a des gens qui mettent des messages un peu militants, un peu mignons. Et voilà, vous avez à la fois des premiers baisers à tel endroit. Et puis, de l'autre côté, des trucs en mode « Vous n'êtes pas seul. Je suis là, j'existe, je vous emmerde. »
Tu peux nous en lire une un peu
Alors, ils sont tous en anglais. Il y en a un au nord des États-Unis, peut-être au sud du Canada. J'arrive pas à voir la frontière où c'est marqué « I fucking hate this town ». Voilà. ce qui est triste et relatable. J'en cherche parce que je veux pas trouver des trop longs parce que sinon c'est vraiment long à lire, surtout que c'est en anglais donc faut les traduire en direct.
Oui, ce qui est compliqué. Je le fais parfois sur Twitch et à chaque fois je me dis pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de lire Reddit en anglais à 10h30 du matin un lundi dans l'an de grâce 2023. Je ne sais pas.
Je cherche s'il y en a en français en zoomant sur la fronce.
La fronce,
hein, parce qu'il faut froncer les sourcils. Hein.
Waouh.
Hop, tu m'as ouvert la porte, nous nous sommes offerts nos cœurs, nos rires et nos corps une quantité de fois indénombrable à toutes les fois qui suivront et aux baisers passionnés que l'on brûle d'échanger. Relation à distance, of course, on connaît toutes.
Oh, voilà.
J'ai envie de pleurer.
Vous
tout évidemment,
de comme ça.
Relation à distance, on connaît.
Exactement. Donc voilà, vous avez plein de choses et quand on zoome sur la France, vous voyez qu'on identifie facilement les villes, etc. Mais du coup, moi j'avais regardé par curiosité.
Il y a des clusters.
Ouais, dans les coins où j'ai pu habiter dans ma vie, parce que j'ai beaucoup déménagé à partir du moment où j'ai commencé mes études. Et en effet, il n'y a pas grand-chose dans le coin où j'ai grandi, ce qui est un peu triste. Mais peut-être que je mettrai des histoires là-dessus,
j'allais te demander,
je vous incite à le faire.
Sans
moi,
forcément être indiscret, est-ce que du coup, l'idée, c'est de visibiliser les personnes LGBTQ. Ah oui, donc l'idée, c'est de visibiliser les personnes LGBTQ à travers le monde.
Ouais.
Et de montrer les histoires très variées qu'elles peuvent vivre.
Surtout que c'est anonyme. Donc, c'est visibiliser les histoires et pas tant les personnes. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, l'existence, en tout cas, des identités LGBTQ dans ces pays. Mais évidemment, surtout, on parlait du fait qu'il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres. D'être out, c'est pas de mettre les gens en danger. Mmh. Est-ce que tu peux faire un petit point vocabulaire sur queer?
Ouais.
Je pense que les auditeurs et auditrices de LMK et les lecteurs et lectrices de Mademoiselle commence à avoir l'habitude du terme, mais il n'est pas si connu. Et je pense qu'on ne l'a peut-être jamais fait dans LMK, donc maybe it's time.
En gros, queer, de base, c'est une insulte qui veut plus ou moins dire étrange ou bizarre. Tordu, c'est ça. Et en gros, c'est une insulte qui a été réappropriée comme beaucoup de termes en fait dans la communauté LGBT+.
C'est une insulte homophobe. Oui. C'est une insulte qui est utilisée pour viser les gens qui, alors probablement transphobe aussi, mais oui, moi je la connais vraiment dans le contexte. C'est l'équivalent du mot en paix qu'on dit plus en France, un petit peu, tu vois.
Oui et non, dans le sens où je pense que c'est plus large et qu'il y a un truc où en fait tu déroges aux normes de genre dominantes. En vigueur, et je pense qu'Anthony va compléter ce que je vais dire, parce qu'il a fait une petite recherche, non ?
Non, enfin, j'allais dire qu'on pouvait mettre en description de l'épisode un article que j'ai écrit sur la réappropriation du stigmate.
Oui.
Le retournement du stigmate, pardon. Sur l'histoire du concept et le cas notamment de termes comme queer, mais aussi slut ou le mot en P, mais parce qu'il y a un bouquin qui sort qui s'appelle avec le mot en P. Au mois de juin, j'en parlerai dans la semaine qui fait, je pense.
Oui.
Mais mot en paix que je n'emploie pas, mais ce serait le titre du livre, donc c'est assez drôle. Bref, et effectivement, oui, queer, c'est historiquement une insulte qui a été réappropriée par la communauté LGBT en opposition à straight, qui veut dire droit, qui désigne les personnes cis hétéros.
Ah, d'où droit tordu.
Ouais, exactement.
Okay. Ça, je savais pas.
Et voilà, et effectivement, c'est aussi transphobe. Mais et en fait, se réapproprier une insulte, ça permet de la recharger positivement et aussi de la priver, de la vider de sa dimension infamante. Et voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de procédé, quoi.
Bah, c'est ce truc où, en fait, si on t'insulte d'un truc et que tu réponds oui, bah, la personne en face, elle va être... Oui, non.
Après, je sais que ça fait un peu débat, mais comme ça fait débat, les femmes qui s'appellent elles-mêmes salopes dans une réappropriation du terme, parce qu'il y a d'autres femmes qui vont dire, moi, je pense que c'est un mot qui, comme de base, il a été inventé pour mal parler d'une certaine catégorie de femmes, on devrait pas l'utiliser du tout, mais ça, les multiplicités du militantisme. Et je pense qu'aussi en France, le terme queer, qui est un terme anglophone, il est beaucoup moins. Enfin, on n'a pas cette historique de. On a utilisé queer comme une insulte, comme on parlait du mot en P ou du mot en G pour les femmes lesbiennes, par exemple. C'est pas un truc qui faisait partie du vocabulaire, donc dans la réappropriation de l'insulte dans les pays anglophones. Et pas exactement la même chose que la dynamique qui se passe en France autour du mot queer, même si ça fait partie de l'héritage du mot.
Enfin, justement, c'est pas paradoxal. Je pense que c'est, au contraire, c'est très accaparé par des marques, des entreprises, des médias, justement parce que c'est beaucoup plus facile de dire queer comme terme fourre-tout et beaucoup plus vague, qui est beaucoup moins identifié par les homophobes aussi. Du coup, en fait, ça permet de s'attirer un public LGBT sans s'aliéner un public qui serait LGBT-phobe, d'employer le mot queer. Et du coup, il y a des banques, par exemple, qui vont dire « oui, on est queer-friendly et tout », et elles sont bien contentes parce que le public LGBT comprend et le public homophobe ne comprend pas.
Oui.
Et aussi...
C'est pas le même engagement que de mettre, je sais pas, une affiche avec deux papas sur le fronton de ta banque, ou du coup c'est assez clair, quoi.
D'écrire bravo les lesbiennes sous ton guichet.
J'adorerais aller à la banque postale qui est toujours ma banque de merde et qui a un panneau bravo les lesbiennes. Je serais là, putain, moi je suis content de vivre.
Mais effectivement, c'est un terme qui est assez dépolitisé en France. Je suis totalement d'accord avec vous. Et en France, je le dis aussi parce que je suis concerné, mais en fait, les soirées les plus engagées, les communautés les plus engagées, les assos les plus engagées, elles vont parler de transpédéguine en fait.
Oui.
Volontairement, et on parle de soirée TPG aussi pour ça. Parce que c'est des mots beaucoup plus forts qui ont encore une énorme...
Dans la langue française, là, on est dans des insultes qu'on se réapproprie, enfin, que certaines personnes se réapproprient, alors que, queer n'a pas été une insulte courante de la langue française.
Non,
totalement. Ni envers la communauté LGBTQ, ni envers quoi que ce soit. Et du coup, est-ce que queer, c'est l'équivalent de LGBT+, à savoir, on parle des gens qui sont pas hétéros et ou pas cisgenres, ou est-ce qu'il y a d'autres... C'est quoi pas la définition de queer, parce que je me rends bien compte que c'est justement un terme qui, dans sa création, est aussi, dans son utilisation en tout cas, recouvre justement un très large panel de personnes. C'est ce qu'on appelle un terme parapluie, qui permet du coup de recouvrir plein d'identités. Mais est-ce que vous diriez qu'en résumé, quand on parle de personnes queer, on parle globalement de personnes LGBT+, ou est-ce que, par exemple, d'autres formes de discrimination, comme, je sais pas, les personnes neuroatypiques, les personnes qui sont non valides, elles sont rentrées dans le terme parapluie, ou on est quand même sur un truc d'orientation sexuelle / identité de genre?
Je pense que pour beaucoup de gens, c'est considéré comme un terme parapluie. Après, je sais que des personnes qui ont pu se définir comme gay et que je connais un temps ont fini par se définir comme queer. Donc il y a une démarche qui parfois est un peu différente, et souvent ces personnes-là me disaient que c'est parce qu'elles avaient aussi un questionnement sur leur genre qu'elles n'avaient pas à la base, et à la base elles étaient plutôt dans un truc de je me définis comme gay parce que je m'identifie comme homme qui aime les hommes, et en fait en ayant un parcours là-dessus, en allant par exemple vers la non-binarité, non-binarité qui est aussi un terme parapluie, du coup ces personnes-là étaient en mode je pense que le terme queer me correspond plus parce qu'il y a ce truc un peu plus difficile à identifier, plus hybride. Je pense que le flou est intéressant, même politiquement, pour certaines personnes qui revendiquent justement le fait d'être un peu insaisissable là-dedans et d'avoir un terme que des gens ne comprennent pas. Je pense que c'est chouette aussi pour ça.
Ça peut aussi permettre de ne pas donner trop de détails, entre guillemets. Ouais. Voilà, tu peux être une personne qui est trans, tu peux être une personne qui est homosexuelle, qui est bisexuelle, qui est les deux, qui machin. Si tu t'inscris dans ce terme parapluie, ça peut aussi être une façon de pas dire je suis un homme qui aime les hommes, ce qui est deux informations assez précises sur toi, mais de dire je suis quelqu'un qui dans certains aspects de sa vie n'est pas dans la norme cis-hétéro. En gros, c'est ça.
C'est ça. Mais du coup, pour en revenir au site, je pense que Queering the Map, l'idée c'est que ça puisse intégrer tous ces récits justement, et en effet, de ce point de vue-là, ça fait parapluie. Et moi, ce que j'aime bien avec cette initiative, c'est que je pense que des récits LGBT, en fait, on en a plein en soi. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de les territorialiser. C'est intéressant de spatialiser vraiment ces vécus-là. Et c'est comme si on mettait des post-it à des endroits et qu'on disait, en fait, juste ici, dans cet endroit où, typiquement, je disais « I hate this fucking town », c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce genre de projet. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un a détesté cette putain de ville avant toi, peut-être pour les mêmes raisons que toi, et peut-être que ça va évoluer, et peut-être qu'il va y en avoir de plus en plus des hypostite entre guillemets de ces vécus là et c'est chouette parce que Dieu sait qu'on peut se sentir seul à être LGBT, notamment dans des petites villes et notamment dans des endroits où la communauté est marginalisée ou invisibilisée, surtout dans des coins qui sont plus conservateurs pour plein de raisons, des raisons religieuses et enfin plein de raisons différentes possibles en fait. Et du coup voilà, je trouvais que le projet était intéressant de ce point de vue là après évidemment je pense qu'il y a assez peu de modération et tout, enfin c'est un peu le bordel en vrai, c'est très brouillon et tout, mais
c'est le concept du mur à post-it virtuel quoi.
Voilà, c'est ça. On n'est pas à l'abri que quelqu'un dise de la merde.
J'imagine
mais
comme tu dis qu'il doit y avoir quand même une mini modération, ne serait-ce que pour si des gens décident d'écrire des trucs homophobes et tout dessus, tu vois.
De ouf.
Mais l'idée c'est de mettez votre parole ici. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a une interaction, est-ce que tu peux commenter, liker, dire moi aussi I hate this fucking town ou c'est juste tu lâches ton truc et tu l'as posé là et si tu veux répondre entre, enfin, tu peux juste poser un autre commentaire, un autre post-it au même endroit, mais tu peux pas répondre.
Non, on peut rien faire. On peut juste poster en effet au même endroit. Et je viens de voir en tapant juste à côté de la ville où j'ai grandi, quelqu'un qui a écrit en anglais la première fois qu'elle m'a genré de la bonne façon et qui a fait fondre mon cœur encore plus.
Oh.
Et c'était à l'orée des couves, nom d'un chien.
My God, mais non, comme pleurer, perso. Il y a des belles histoires qui arrivent partout.
Bien sûr,
il n'y
a pas que
cool
du négatif. C'est toute la complexité, je trouve, qui se crée tout simplement parce que la complexité, elle vient avec la multitude. Et elle vient avec la multitude et le contraste et peut-être le contradictoire de tous ces récits, en fait. Et c'est ce que je trouvais assez chouette dans ce projet, dont je n'ai pas finalement grand-chose à dire. Voilà, juste ça existe, c'est chouette.
Non mais c'est trop cool, moi c'est trop ma came les projets, enfin pour moi internet c'est vraiment connecting people, tu vois, et tous les trucs, genre il y a un truc qui s'appelle Post Secret qui est hyper connu où c'est des gens qui envoient des cartes postales sur lesquelles ils écrivent un secret, c'est un truc américain, et ils l'envoient à une boîte postale de Post Secret, et tous les dimanches sur Post Secret, donc à la base c'était un site, maintenant il y a évidemment des comptes sur tous les réseaux, ils postent les weekly secrets et c'est des trucs qui sont parfois trop mignon anodin, genre aujourd'hui j'ai volé le dernier sneakers à mon mari et j'ai laissé la boîte comme ça, je sais pas que j'ai pris le dernier et je lui dirais pas, tu vois, et genre c'est pas grave, j'avais envie, et des fois c'est des trucs hyper graves hyper douloureux et c'est juste un truc de, et c'est anonyme parce que c'est juste des gens qui écrivent sur des cartes postales, et souvent il y a un petit, enfin de plus en plus il y a un petit travail limite des fois de collage, de mise en page et tout, les gens redessinent aussi sur leurs cartes postales et les retravaillent. Et ça, c'est, enfin, tous les dimanches, je vais lire Post Secret, c'est mon truc préf, quoi. C'est vraiment là, c'est trop beau. Et j'aime bien ce genre d'initiative qui est juste, laisse ta petite trace, l'équivalent de machin était ici que t'écris sur un banc ou que tu graves dans un arbre, mais sur internet et avec du coup moins d'arbres abîmés et plus de place pour raconter tes trucs.
Est-ce que t'avais vu sur TikTok, j'arrive pas à me rappeler.
Bah non, parce
que
vraiment j'ai 31 ans, donc la réponse est non, hein, je n'ai pas TikTok.
Bon, désolé. Voilà. Il y a une initiative qui est un peu similaire où les gens disent un secret et souvent assez triste, souvent assez lourd, et à la fin ils décident oui ou non de se retourner vers la caméra. Ou alors de partir avec leur secret. Et je trouve l'image assez, assez poétique. Et du coup, t'as plein de gens qui te lâchent des grosses dingueries. Et il y a un mini silence. Est-ce que la personne va se retourner? Et en fait, soit tu la vois s'éloigner de la caméra et ça coupe, soit elle se retourne vers toi. Et,
c'est marrant, c'est un peu plus sensationnalisant, tu vois, et un peu plus incarné.
Oui. Bah, c'est un truc
mais
américain.
Mais c'est l'évolution
après,
des réseaux sociaux aussi.
Oui,
tu vois.
C'est de la mise, c'est du spectacle. Ça se trouve, c'est faux, c'est mis en scène, j'en sais rien, tu vois. Genre,
mais... Oui, bah, ça se trouve, les secrets sur vos secrets, ils sont faux
TikTok,
aussi, mais je pense qu'il y a juste assez de gens qui ont des secrets à raconter pour que
oui,
ça marche pas.
Oui.
Merci, Baptiste.
Pas de soucis.
Pour ce kiff engagé, mais aussi touchant, à savoir mon combo préféré. Avec la mangue et le curry, mais je vous en ai déjà parlé.
C'est tout changé.
Vincent, c'est quoi ton kiff?
Oui, j'allais dire 40 000 autres trucs sur le retour.
Ah non, mais tu peux.
Stigmates,
pardon.
Mais, non, mais je vais les.
Enfin,
on va mettre.
Yes.
Je vais en faire mon kiff. Mon kiff, c'est retourner les stigmates.
Non, mais j'ai écrit un article là-dessus. Du coup, on va le mettre en description de l'épisode. Ce sera très bien. Je l'ai écrit chez Mixed Magazine. Et voilà, et ça parle aussi de qui peut retourner le stigmate et est-ce que d'autres gens qui ne seraient pas concernés peuvent employer ces termes-là
Non.
À toutes les sauces ou pas, il y a des gens qui ont un peu trop de liberté comme ça. Et il y a des cas de figure très français, hein, pour le coup, je pense au manifeste des 343, qui ne savait pas le manifeste des 343 salopes, en fait, c'est Charlie Hebdo qui l'avait renommé comme ça. Ou même.
Petit point contexte au cas où pour les plus jeunes, toi tu es très cultivé pour un 2002 en fait, mais le manifeste des 343, c'est 343 femmes qui avaient avorté au moment où c'était illégal. Qui avait signé une tribune dans la presse française pour
dans l'Obs en 71
dans l'Obs
genre Catherine Deneuve
l'unité pour la légalisation de l'avortement dans l'idée de dire en fait ça existe déjà, on l'a fait, et c'était effectivement des femmes parfois de tout premier plan en termes de personnalité publique. Et moi, comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec cette idée de c'était le manifeste des 343 salopes qui se sont justement auto-appelées salopes pour dire bah on n'est pas des salopes parce qu'on a avorté. Et j'ai appris très tard que elles ont jamais décidé de s'appeler 343 salopes, quoi.
Et c'est comme ça que l'histoire l'a retenu, et ça en dit long. Et il y avait aussi une marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 avec beaucoup d'immigrés nord-africains, et en fait ça a été renommé par Libération, la marche des beurs. Et en fait il y a un peu trop de libertés qui ont été prises, quoi.
Oui, peut-être détendez-vous, quoi.
Voilà, donc en fait c'est pas aux autres de vous retourner comme ça, enfin là ils vous insultent en fait, enfin mais bref.
À minima c'est réducteur à minima, quoi. On va dire.
Et donc toutes ces questions, je les interroge dans l'article qui est en description de l'épisode. Voilà, ça vous intéresse de creuser le sujet. Sinon, mon kiff, c'est en parlant du TikTok, la transition est ratée car j'ai fait une parenthèse. Désolé, mais c'est mon côté journaliste qui aime trop préciser les choses. J'allais taper.
Ah bah ici on est dans la team contexte, hein, t'inquiète, c'est pas moi qui vais râler quand on précise des infos. J'ai fait une parenthèse dans ta parenthèse pour rappeler c'est quoi le manifeste des 343, donc on est à l'...
Oui, eh bien, mon kiff, c'est une vidéo YouTube qui est assez exigeante, qui a dû prendre du temps à être produite et qui est hyper intéressante. C'est un documentaire qui a été produit par la chaîne Janos au Livre, qui est une chaîne de booktubeuses, en fait. Et encore, booktubeuses, c'est un terme qui est...
Tu peux redire le nom de la chaîne ?
Janos au Livre, en trois mots. C'est une chaîne YouTube qui a été créée par la journaliste Jeanne Seignol, S-E-I-G-N-O-L. Mais tapez Janos au Livre, vous allez la trouver, hein. C'est juste que en fait elle dit pas forcément son nom en toutes lettres, du coup je me permets de la nommer car elle fait
on
du travail formidable. Voilà, on name drop, on donne on rend hommage. Elle a produit une donc d'habitude elle parle de livres toute l'année sur sa chaîne YouTube, elle recommande des choses, elle en déconseille d'autres, elle fait des petits points sur des auteurs et des autrices formidables qui méritent d'être davantage connus par exemple. Et là elle a créé un documentaire qui s'appelle Comment TikTok bouleverse l'industrie du livre.
Ah, trop bien, le BookTok, c'est ma passion. Franchement, je connais rien à TikTok, mais j'ai lu tous les articles du monde sur le BookTok, qui est donc la commu book, enfin, ce qu'on appelait avant, du coup, les booktubeuses ou les blogueurs, mais plutôt blogueuses litées, parce que c'était beaucoup des femmes. Du coup, maintenant, évidemment, c'est sur TikTok, ça s'appelle le BookTok. Et il y a eu plein de takes ces derniers temps sur le BookTok, qu'est-ce que ça fait en termes de rapport consumériste au livre et tout, et ça m'a passionné. Donc, ravi, tell me more about le documentaire sur le BookTok.
Et ben, justement, ce documentaire pose des questions semblables, Mimi, à ce que t'évoques. C'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on a ça à chaque nouveau réseau social ou chaque nouvelle technologie. On se dit,
en vrai, BookTube,
est-ce que
déjà
la télé va tuer la radio? Est-ce que YouTube va tuer la télé?
Video kill the radio star. Pour une référence musicale. Ouais. Attention, dans laisse-moi kiffer.
Un podcast érudit, bien sûr.
Vous habituez pas trop.
Une innovation technologique qui laisse présager le pire.
Les carottes sont cuites pour la radiophonie.
Eh bien, Janos ce Livre, elle a 63 000 abonnés sur YouTube pour son contenu qui est hyper intéressant et qui est pas assez mis en lumière, je trouve. Et en fait, dans ce documentaire-là, qui dure 30 minutes, qui est hyper bien, enfin, je pense qu'elle l'a autofinancé. Non, je crois qu'il y a au crédit initial, il y a le CNC, donc peut-être qu'elle a eu une petite aide.
Yes, elle a eu la bourse, une des bourses du CNC. Sachez-le, si vous produisez des vidéos, notamment sur Internet, il y a plein de bourses et d'aides à la création du CNC, le Centre National de la Cinématographie, qui peuvent vous permettre de transformer une idée en « Ah, cool, j'ai 5 000 balles pour la faire », ce qui aide pour faire une vidéo de 30 minutes.
Bah oui, en plus, elle est à la rencontre de plein d'acteurs du milieu, donc des éditeurs et éditrices, des journalistes, et des booktubeuses, des booktalkers et booktalkeuses. Oui. Voilà, et donc notamment elle va à la rencontre de Sophie Charnavel, directrice des éditions chez Robert Laffont, Augustin Trapenard, homme de ma vie. Non, je rigole.
Entre autres, homme de ta vie.
Je plaisante. Mathis, ne va pas le taguer, s'il te plaît, sur Instagram. Merci. je te vois venir.
This
non, mais présentateur de la grande librairie maintenant, hein, qui était partout ailleurs avant. Mélanie Le Camus, qui est chargée de communication pour Hachette et le livre de poche jeunesse. Et d'autres gens encore. Et notamment une booktalkeuse qui s'appelle Feriel Abdi. Donc le documentaire est sorti le 25 mars et en fait je le trouve hyper intéressant parce qu'elle va vraiment à 360 sur la question avec plein d'acteurs et actrices différents du milieu et c'est assez nuancé et en fait c'est bien parce que c'est une journaliste qui est jeune et engagée, je l'ai croisée moi à Street Press il y a des années et en fait elle est c'est trop cool d'avoir son point de vue de jeune qui adore les livres et qui est elle-même youtubeuse, booktalkeuse ou plutôt youtubeuse littérature, enfin.
Bah, ça évite l'aspect un peu vieux con de mon temps. On parlait des livres voilà. Avec Bernard Pivot à la télé à minuit et demi et c'était super, tu vois. C'est bien d'avoir des gens qui sont.
Oui, c'est
premiers concernés par la pratique du booktube, du booktok, etc.
C'est ça, quoi. Non seulement elle est parmi les premières concernées, mais en plus elle a pas du tout un rapport surplombant à son sujet de documentaire. Et ça, c'est trop rare parce qu'en fait, il y a trop de journalistes qui sont là, genre, oui, alors on est allé voir ces gens qui font un truc bizarre et qu'on juge comme mauvais par essence avant même de l'avoir étudié. Mm-hmm. Souvent, c'est un rapport hyper surplombant au sujet. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de journalistes que je ne nommerai pas. Mais là, justement, ce que fait Jeanne Seignol, c'est hyper intéressant. Elle est dans un rapport hyper horizontal. Elle va avoir des acteurs du livre qui les fabriquent, des gens qui les promeuvent habituellement sur des canaux traditionnels comme la télévision, la radio, comme Augustin Trapenard.
Ou mademoiselle.com, par exemple.
Mademoiselle.com aussi, bien sûr. On parle de livre.
Ce fameux blog.
ce fameux blog littérature.
Mais d'ailleurs, même le stigmate de blog, quelque
oui,
part, c'est devenu une forme de stigmate, alors qu'en fait, les blogs, c'est super. Fin, c'est un espace de création à soi. Fin...
Oui, et c'est ça qui permet à tout le monde de se réapproprier la culture et la critique culturelle et le regard
totalement.
Sur la culture sans être validé par l'élite. Enfin, j'ai rien contre Augustin Trapenard, dont en plus je connais assez peu le travail, mais tout le monde ne peut pas être Augustin Trapenard qui est payé par des grandes chaînes et des grandes émissions pour parler de la culture que lui, il estime être pertinente et intéressante. Les blogs ont aussi permis de mettre en lumière plein de ce qu'on appelait des sous-cultures et de les légitimer au même titre que le reste des œuvres culturelles.
Oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un petit peu Augustin Trapenard dans le documentaire, donc ça devient très méta. Mais il évoque justement le fait que dans la grande librairie, les genres littéraires qui m'ont été les moins présentés, c'était les genres de l'imaginaire, notamment.
Fantasy, science-fiction, c'est tout ça qu'on appelle littérature de l'imaginaire.
Exactement.
Ce qui n'est pas dans le vrai monde, quoi.
Mais en même temps, c'est ça qui cartonne le plus sur TikTok. Et voilà. Et en fait, les genres les plus méprisés à la télé et à la radio, c'est les genres qui sont les plus médiatisés sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc.
Et... C'est un peu le même débat qu'il y avait avec le pass culture où les boomers ils étaient là. Mais vous vous rendez compte que les ados ils vont acheter des mangas au lieu d'acheter des livres ? J'étais là. Mais c'est... Les mangas
c'est
des livres, frère.
Des livres,
hein.
Ouais.
T'as vraiment 100 pages à lire déjà généralement dans un manga. Aussi, ça coûte 6 balles donc tu peux en acheter plein avec ton pass culture. Et il y a plein de choses à lire et à apprendre dans les mangas, quoi. C'est pas parce qu'il y a des images que c'est pour les enfants, quoi. C'est pas choupi.
Ouais, c'est clair. Et je crois que c'est un truc que j'ai dû dire 40 fois dans les moi qui fait, mais je vais le redire, c'est que. Je pense que en fait, il faut vraiment sortir d'une vision hyper hiérarchique et verticale de la culture, avec en haut il y a la culture élitiste et en bas il y a la culture pop.
Tu veux dire qu'il faudrait arrêter d'être snob ?
Oui, bien sûr, et que être cultivé aujourd'hui, c'est avoir une vision beaucoup plus horizontale de la culture et être au courant de ce qui se passe aussi bien sur TikTok que ce qui se passerait à l'opéra. Enfin, en tout cas, ce qui se passe à l'opéra n'est pas plus important que ce qui se passe sur TikTok, en fait. Et je pense que ce qui se passe à l'opéra concerne beaucoup moins de gens.
Oui, c'est ça. Si on parle en audience pure, je pense que ce qui se passe à l'opéra est moins visible que ce qui se passe sur TikTok, clairement. Et moins regardé aussi, tout simplement. Quoi.
Plus subventionné.
Par contre,
et l'opéra est extrêmement subventionné. Ouais. C'est sa vie sous perfusion de l'État.
Mais ce qui en soit, tu vois, pour moi, ça fait partie de la mission du service public.
Oui,
de,
sûr,
de garder en vie des trucs qui sont pas rentables, mais qui ont pas à l'être. L'art, il a pas
bien
forcément
sûr.
À l'être. Et que le CNC donne des sous à des youtubeurs et des youtubeuses et que les services publics financent l'opéra pour que les gens qui aiment l'opéra aillent à l'opéra et découvrent l'opéra, bah, it's good. Mais si ça peut venir sans le jugement de valeur sur le reste de la culture, c'est mieux.
Ouais, c'est clair. Enfin, je disais ça en mode constat, pas du tout en mode reproche, mais je tiens à rappeler qu'une place d'opéra coûte quand même extrêmement
c'est
cher.
Ce que j'allais dire,
ça ouais. n'empêche oui,
c'est
pas ça. Que ce soit extrêmement subventionné. Mais bon, c'est un constat
temps,
factuel.
Il me semble, en tout cas, quand j'étais à Lyon, et que j'étais étudiante, il y a des trucs, il y avait vraiment des places à 12 balles pour les étudiants. Quoi.
Oui, alors oui, il y a des
10 balles,
premières.
Mais t'es placé comme une merde. Hein,
alors,
à Lyon.
Oui, oui, bien sûr. Je dis pas que c'est les meilleures places, mais en tout cas, ça reste. Un moyen d'aller à l'opéra pour
balcon.
Au moins voir une oui. fois. Est-ce que j'y ai été? Est-ce que c'était possible financièrement pour moi? Oui, c'était le
Sachez
prix d'un McDo.
Sachez qu'à Paris, il y a aussi, du coup, que à Paris, je pense, les avant-premières jeunes à l'Opéra de Paris. C'est des soirées pendant lesquelles toutes les places sont à 10 euros. Donc, tu peux te retrouver vraiment front row. Front row pour 10 balles. Le problème, c'est que c'est prix d'assaut. Et alors, c'est réservé aux moins de 28 ans. C'est pris d'assaut par des gens qui n'ont pas du tout moins de 28 ans déjà.
Ils vérifient pas ?
Non.
Ah non,
ah
mais
non,
c'est
ils
pas
vérifient
cool,
pas.
Ça. Franchement, genre, c'est vraiment. Et je trouve que au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un truc de moi, en tout cas quand j'étais étudiante et même un peu maintenant à 31 ans, je me dis si je vais à l'opéra, je vais être plutôt entourée de personnes plus âgées que moi, qui ont plus les codes. Donc le fait de non seulement savoir que c'est moins cher, mais qu'en plus je vais pas être dans un carré de 10 pélos qui ont pas de thunes, mais que bah, peut-être la majorité des gens qui vont venir ce soir-là spécifique, ils vont avoir un peu plus mon âge ou un peu plus mes codes, ça me rassurait. Donc si en fait il y a pas de vérification et que Jean-Michel 50 ans qui va déjà à l'opéra plein pot tous les mois, il prend la place à 10 balles moins de 28 ans, je suis là, bon. Jean-Michel, laisse-en pour les autres.
Il y a quand même énormément de jeunes et beaucoup plus que lors de soirées normales à l'opéra. Après, il faut se ruer sur le site à l'ouverture de la billetterie parce que c'est une cata, quoi. Enfin, vraiment,
ça j'ai envie de dire
5 minutes, c'est
100%
fini.
Des événements culturels à Paris,
voilà.
quoi. C'est pour ça que je vais au bar. Au lieu
mais
de
en
faire
tout
des
cas,
culturels.
C'est génial.
Il y a pas mal de trucs. Enfin, moi, j'ai vu plein de trucs formidables, même en théâtre, où tu vois, la salle est à moitié vide et c'était
oui,
triste.
Non, mais bien sûr, il y a plein de trucs aussi très très bien qui sont pas connus. Mais faut tous vachement... les trucs un peu, bah, surtout les grosses structures où t'as moyen d'y aller pour moins cher ou de façon plus facile, souvent, je trouve, c'est pris d'assaut.
Les grosses institutions.
Chiant,
en fait, le bon plan pour celles et ceux qui sont à Paris ou de passage à Paris, c'est souvent, en fait, concernant le théâtre, hein, je parle de ce que je connais, c'est vraiment les petits théâtres aux alentours. En banlieue proche et même en banlieue plus lointaine, qui souvent font tourner les spectacles après. Typiquement, en ce moment, on a Don Juan de David Bobet qui passe à la Villette. Ça a été complet en 2 secondes. Don Juan auquel j'ai consacré un épisode en Dramatis.
Abonnez-vous.
Et ça passe à Créteil dans, je sais pas, 2 ou 3 semaines, quoi. Et,
smart. Ok.
Bah ouais.
J'avais pas cette astuce.
Et les gens n'ont pas ce truc-là, sont pas ce réflexe, alors que vraiment, vous prenez le métro, quoi.
Après, oui. Le théâtre a aussi à mieux communiquer, je pense. Mais,
pardon, Anthony, on a complètement digressé loin du documentaire
pardon.
Sur le BookTok, mais on y revient.
Non, j'allais juste dire, oui, le documentaire que je trouve super et que je vous le recommande chaudement, et c'est sur YouTube, disponible, accessible, sous-titré.
Et c'est trop cool que ça soit un documentaire français, francophone, et sur le marché du livre en France, parce que la plupart des articles et tout que j'ai lus sur le BookTok, c'était des trucs américains et anglophones qui parlaient du coup de l'impact de ces contenus-là sur le rapport au livre et l'industrie du livre aux États-Unis, et dans le monde anglophone, qui est très différent de l'industrie du livre française, que ce soit en termes d'histoire de l'industrie, en termes de rapport à la littérature, et puis même en termes de public, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent en anglais que de gens qui lisent en français. Donc potentiellement, tu fais un livre qui cartonne en anglais, tu peux le vendre à des centaines de millions d'exemplaires, là où tu fais un livre qui cartonne en français, t'as littéralement juste moins de public de base qui est francophone. Et après, ça passe par des traductions et tout, mais c'est toute une autre zumba. Donc c'est cool d'avoir un documentaire sur ce sujet en France, parce que ça, c'est assez rare, je trouve.
Ouais, c'est clair. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que elle parle effectivement de la dimension chiffrée du marché du livre. Et justement, ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte à quel point le marché du livre, c'est un marché qui a des rebondissements inattendus. Genre, t'as un livre qui va se vendre à 4000 exemplaires la première année d'exploitation, et 4 ans plus tard, il va faire 600 000 exemplaires parce que quelqu'un en a parlé sur TikTok. Quoi. Enfin, c'est
et c'est rarement les livres qui vont être validés comme les chefs-d'œuvre pépites culturelles par
les grands médias
dominants. Voilà. Les garants du bon goût de la culture. C'est enfin. Pour prendre un exemple qui, en plus, fondamentalement, n'a pas des valeurs qui sont les miennes, mais c'est OK que ça existe. Enfin, Twilight, je pense que Twilight a fait beaucoup plus de ventes que n'importe quel bouquin d'Edouard Louis, même si ça a été méprisé pour plein de raisons. Mais je pense qu'il y a des bonnes raisons de ne pas aimer Twilight. Et il y a le mépris classico de c'est pour les adolescentes et c'est de l'imaginaire. Et c'est un peu sexy.
Eh bien, je vais faire mon coming out. J'ai adoré les deux. Enfin, j'adore Twilight et Edouard Louis. Voilà. Et du coup,
j'adore Fatal et Wes Anderson. Écoute, on peut. We can do it all.
Soyons polyvalents, soyons versatiles.
Nous sommes des multitudes.
Soyons horizontaux et horizontales. Comment TikTok boulevard, c'est l'industrie du livre. Documentaire de Jeannot ce livre sur YouTube. Voilà.
Bravo.
Trop cool. Incroyable.
Bravo.
Et c'est gratuit. On adore la culture gratuite.
Et du coup, n'hésitez pas à regarder le reste de la chaîne évidemment, de Jeannot ce livre
évidemment.
Et vous
abonner. Abonnez-vous, lâchez des commentaires. Lâchez-lui des commentaires. Genre, viens de la part d'LMK pour voir si je suis.
Mais grave. Et en plus, okay. Je trouve qu'il me semble que le booktube en France, ça avait jamais vraiment pris. Tu vois, je me souviens de mes années chez Mademoiselle où, bah, moi, j'aime bien la littérature. J'ai fait des vidéos. Les premières vidéos que j'ai faites sur Mademoiselle, c'est des recos bouquins. Et on a parlé de quelques booktubeuses, dont Bulldop, qui maintenant est sur Twitch et qui fait des trucs. Mais j'ai vraiment, dans mon souvenir, mais je dirais pas que j'ai fait une étude complète du marché, mais il y en avait genre deux ou trois qui arrivaient à peu près, et encore pas à en vivre, je pense, mais à avoir une forme de notoriété à peu près stable. Et mais ça a jamais décollé de fou, le booktube, alors que je savais qu'aux US et dans les pays anglophones, justement, c'était tout un truc. Donc si ça revient avec le booktok, pourquoi pas, finalement.
Bah, j'espère. Parlons de littérature partout où c'est possible.
Oui. Et envoyez-nous des recos de vos comptes booktok préférés, et on en parlera dans Laisse-moi kiffer, peut-être. Ariane, c'est quoi ton kiff?
Eh ben, sur un ton beaucoup plus léger, ce midi, je suis allée déjeuner dans un endroit.
On va parler bouffe.
Oui.
Mathis, ça va être gustatif, t'es prêt? Ça va encore être de la gustativité. Hier, on a beaucoup parlé bouffe pendant le live avec Kalindi, et Mathis, il était fâché.
Oh là là, bah, je vais faire vite alors.
Non, vas-y, prends ton temps. C'est moi l'animatrice, c'est pas Mathis. Ne regarde pas Mathis, je suis dans ta team. T'as mangé quoi? C'était où? Raconte-moi tout.
C'est un endroit dans lequel je vais depuis, franchement, des années. Je pense que la première... Mathis me fait des menaces de mort. Alors... dans lequel je vais depuis des années. Franchement, je pense que la première fois que j'y suis allée, c'était genre en 2016. Ça date.
Je suis en 2023 actuellement, pour ceux qui nous écoutent en 2027 oui. Et qui ont élu une présidente de gauche. Bravo bien à elles et eux, bien sûr.
En fait, au départ, c'était un shop de bubble tea. Et bon, j'aimais pas spécialement ça. Et quand j'ai découvert cet endroit en particulier, je me suis dit, ça révolutionne ma pensée sur la question.
Banger.
Okay. Banger, le bubble tea.
Alors moi, je suis dans la team,
sur
j'aime
la question
pas le bubble
tea.
Ouais. Donc, à voir si t'arrives à me convaincre d'aller retester un bubble tea, parce que je ne bois pas de bubble tea. Je trouve que c'est une boisson qui n'est pas pour moi à 100% des égards. La texture,
j'adore.
Le goût, les
j'allais dire une aberration, mais oui.
J'allais dire c'est de la merde, et après je me suis dit non, c'est pas de la merde, on dit j'aime pas.
C'est mon rôle.
J'ai dit j'aime pas.
C'est mon rôle dans LMK d'être horrible.
Justement, et d'être problématique.
J'adore les contrastes de texture. Enfin, t'as le liquide, t'as les bulles qui peuvent être remplies de jus qui explosent en bouche, et t'as les billes de tapioca qui sont à mâchouiller avec tendresse là.
Mais moi ça me reste sur le bide, les bubble tea. C'est... Je suis là, il y a trop, j'ai l'impression de manger un goûter et un
alors
repas
un
et
goûter,
boire
oui.
Un thé en même temps, et ça fait tout le temps un demi-litre. Je suis là, mais donnez-moi une pinte de bière, donnez-moi pas une pinte de thé avec du lait et de tapioca. C'est trop.
Et ben justement,
peut-être que j'aime pas trop le tapioca.
Dans ce shop, déjà il existe trois tailles, dont la plus petite est tout à fait petite.
Très
donc,
bien.
Donc déjà un très bon point, et je prends toujours petit parce que je suis d'accord, je ne comprends pas le concept des boissons qui font 3 litres.
Coucou les États-Unis.
Exactement. bref, ça s'appelle Bubolitas, c'est dans le 4e, et c'est rue Quincampoix. Donc en fait, juste à côté du centre Pompidou, pour les Parisiens parisiennes. Et au-delà
et pas très loin à pied des bureaux de Mademoiselle, ce qui est pratique
pas très loin
toi.
À pied, tout à fait, j'ai mis 15 minutes. Et au-delà des bubble tea, ils font aussi du salé.
Ah, là, tu me parles.
Okay. Ils font... et ils ont plein de genres d'empanadas fourrés à différents...
C'est original de faire empanadas et bubble tea.
Mais parce qu'en fait, les gérantes et gérants de ce shop sont... en fait, ils ont un shop à Barcelone. Et je crois que, quelque part, ils sont originaires d'Argentine.
Et donc, en fait, quelque part, ils sont originaires d'Argentine.
Je sais pas en fait, parce que
on sait pas exactement, est-ce qu'ils viennent d'Argentine, est-ce que c'est leurs parents,
voilà.
Est-ce que
ah,
tout ça.
Quelque part,
il y a une
de ce point de vue-là. Parce que je me dis, est-ce que c'est quand ils sont à Roubaix, ils sont originaires d'Argentine, et quand ils viennent à Lyon, ils sont ah, nous sommes d'Italiano. Genre vraiment, ils s'inventent une vie partout où ils vont.
Et après, ils font du bubble tea, t'es là, quoi.
C'est de la cuisine fusion.
Et donc, ils vendent aussi des. Ils ont une sorte d'épicerie argentine, quoi. Genre, ils vendent je vais le prononcer tellement mal, c'est gênant.
Vas-y.
Dulce de leche.
Oh, ça va, je crois que ça
voilà,
va.
Prends rien
ça,
du tout.
C'est des leches, mais j'ai fait allemand, donc je te dis ça va, mais what do I know.
Ils vendent donc ces empanadas délicieuses, fourrées, olives feta, poulet champignon, épinards chèvre. Enfin, c'est vraiment un délice. Ils ont aussi des gâteaux. En fait, tout ce que j'ai goûté est délicieux. tout ce que j'ai goûté est délicieux là-bas.
Donc valeur sûre à tous les niveaux.
Exactement.
Quoi. Et en quoi leur bubble tea t'a réconcilié avec le bubble tea vu que t'aimais pas le bubble tea?
Parce que.
Bubble tea focused, Mimi, on est.
Bah déjà, ouais, les empanadas, je sais déjà, j'aime bien, tu vois. Donc,
oui.
Déjà, on peut prendre sans sucre. Alors je sais pas si c'est le cas dans tous les shops. Joue, ouais. Mais en tout cas, je trouve effectivement que c'est toujours beaucoup trop sucré ailleurs. Et là, tu peux prendre sans sucre, c'est un délice. Il y a des bubble tea, des smoothies, donc faits uniquement avec des fruits mixés et du thé. Il y a du thé glacé, donc c'est juste, enfin franchement,
ça, thé glacé maison, c'est banger toute la vie. Hein.
Voilà. Ouais. Il y a aussi les thés au lait, donc plus classiques, thé noir, lait, voilà. Et il y a aussi des éditions limitées qui font tous les mois, qui sont un peu plus fancy. Et franchement, mais j'ai une carte de fidélité, je sais pas combien de boissons gratuites j'ai eues depuis que j'y vais, mais c'est une dinguerie, quoi. Mais vraiment, bon bref, délicieux. Et au-delà de ça, je sais plus ce que je voulais dire.
Pardon, du coup, on était sur les empanadas, sur t'as dit que tout ce que t'as mangé là-bas était bon. Anthony, t'avais potentiellement une question que remarque. Ah, bonne question.
En fait.
Car c'est à côté du centre Pompidou, dans le 4e arrondissement de Paris.
Et que je suis un rat.
Oui, laissez-moi vous dire que c'est pas le coin le moins cher de la ville. Hein.
Alors, déjà, avec 10 boissons, quand t'achètes 9 boissons, t'as la 10e gratuite, même les petits. Et à l'époque, c'était moins cher qu'ailleurs. Maintenant, ça a un peu augmenté comme partout l'inflation.
Oh, Macron, voilà.
Le petit, il coûte 4 euros.
Il y a combien de centilitres?
Putain, je sais pas, il me pose la question trop précise.
Ah bah, faut préparer tes kiffs à un moment.
Est-ce que c'est sur une galette de coca de 33 centilitres ou est-ce que c'est moins?
Ouais, ça doit être ça.
33.
Mmh.
Ah, c'est beaucoup quand
plus
même.
Plus ou
déjà.
Moins.
Pour un lieu de ce genre-là, ça ne m'étonne pas trop, ça va.
Oui.
Les empanadas, c'est combien une empanadas par exemple? Une empanada, c'est... du coup.
Voilà, tu me prends une colle.
Si je peux me permettre.
Je crois que c'est 3 euros l'une.
Ah, ça va, c'est vraiment le coup que j'en achète 8 parce que je me dis ça va, c'est 3 euros quoi. Et c'est pas très grand.
Ces informations seront vérifiées.
Tout à fait, on vous mettra bien sûr le lien du restaurant dans la description, donc vous pourrez vous-même faire notre travail et aller vérifier les prix.
Okay.
Ouais, exactement.
Il y a beaucoup d'options VG
dans les empanadas.
Mais c'est une garde à vue.
Je t'ai dit, alors il y a la version, genre...
Désolée d'être journaliste.
Ah, mais je te dis, parce que j'ai tout goûté là ce midi, je me suis explosé le ventre. Il y a la version genre italienne en mode tomate mozza, il y a feta olive et...
Épinard chèvre.
Et je crois qu'il y a 3 autres versions qui sont pas végé du coup.
Mais souvent dans les trucs donc les empanadas, si jamais vous savez pas, c'est des genres de petits croissants en demi-lune, enfin des chaussons en demi-lune pardon, tout à fait. Je pense que c'est de la pâte brisée, c'est pas de la pâte feuilletée en tout cas, et c'est une spécialité sud-américaine, probablement argentine, qui peut être fourrée à environ tout comme tous les chaussons et les sandwichs etc. Je trouve que la bouffe contenue dans de la bouffe c'est toujours mieux que de la bouffe tout court, donc c'est ma passion les empanadas. Et c'est pas très grand, généralement un empanadas ça fait la taille d'une paume de main je dirais, et donc l'idée c'est de pouvoir en prendre plein et de mix and match.
Exactement. Allez chez Bubolitas.
Bubolitas.
17 rue Quincampoix dans le 4e.
Et vous y croiserez peut-être des stars comme Ariane.
Alors,
qui fait.
Anecdote hilarante.
Oh, t'as une anecdote de star là-bas?
Ouais, clairement.
Ok. J'espère que t'as croisé Matisse.
J'espère que vous connaissez Aloïs Sauvage.
Oui, bien sûr. On avait le même coiffeur un temps.
C'est
Puis après, c'est devenu trop cher pour moi et pas pour elle.
Ouais, évidemment.
Pas la même carrière en même temps. Parce que même moi, je sais qui c'est Aloïs Sauvage. Mais redis qui c'est Aloïs Sauvage.
Aloïs Sauvage, c'est une rappeuse, hein. Française, rappeuse, chanteuse, circassienne, performeuse, danseuse,
pas le combo auquel
elle
on
est. Elle est comédienne aussi, elle a joué dans plein de films.
Oui, elle fait plein de choses.
Oui, moi je la connais plutôt côté ciné, je pense,
voilà.
Grâce à Kalindi.
Et en fait, elle adore cet endroit et je l'ai vu plusieurs fois.
Vous croiserez un peu le gratin.
Voilà.
Bubolitas.
N'hésitez pas à y aller pour voir Aloïs Sauvage.
Du gratin dans un magasin d'empanadas. Qu'est-ce qu'on n'aura pas vu? Et toi, Mimi, c'est quoi ton
Alors, kiff? Comme je vous l'ai dit, je me suis... Merci beaucoup, Ariane.
Mais de rien.
Merci beaucoup,
N'hésitez pas à venir dans Laisse-moi kiffer, nous recommander des restaurants et de la bouffe. C'est une passion commune pour tous les membres de ce podcast.
Non.
Donc, hier, je me suis couchée un peu tard, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas la faute de Matisse ou de Laisse-moi kiffer, puisque certes, on a fait un live de 2h30, mais on est quand même parti sagement du bar à 22h, après un ou deux verres de rouge. Donc,
moi, j'étais bourré, j'étais le seul, donc bon.
Oui, et puis t'as 12 ans, quoi.
Oui.
Donc ça explique aussi. Moi, je suis rentrée chez moi le temps du trajet en bus, ça va, j'avais des saoulés. Donc c'est pas parce que j'étais bourrée que je me suis couchée tard. Au contraire, j'avais plutôt envie de me coucher en rentrant. Mais je me suis fait bamboozle parce que mon mec fait un truc avec sa meilleure pote que je trouve trop cool. Ça fait quelques mois qu'ils font ça. Toutes les deux semaines, ils se réunissent et ils se montrent. Ils sont circassiens. Ils se montrent chacun un film que l'un des deux aime et que l'autre a pas vu. Donc ils se font mutuellement découvrir. Donc ils regardent deux films. D'abord, c'est sa meilleure pote qui lui fait découvrir un film, puis lui un film ou l'inverse, et c'est toujours sur un thème. Donc ils ont et là hier c'était les films d'horreur, qui est pas trop ma cam en soi. Mon mec était un peu embêté parce qu'en plus il m'a dit en vrai moi je suis une flippette, j'en ai pas vu beaucoup, donc je sais pas trop lequel lui montrer qui est bien et tout. Et je l'avais un peu laissé galérer. Et donc je suis rentrée à la fin du film de sa pote et au début du film que mon mec avait choisi. J'ai dit je reste 5 minutes et je suis clairement restée jusqu'à la fin et je me suis couchée jusqu'à 2 heures parce que c'est un film d'horreur que j'avais jamais vu en entier et qui est vraiment trop bien, qui s'appelle Les Autres, The Others. Oh. C'est un film de 2001,
oui.
Donc Anthony, tu n'étais pas né, avec Nicole Kidman, wow. Tout à fait.
Incroyable ce film.
Et c'est vraiment un banger, genre il a 22 ans, du coup je l'ai vu hier, enfin je l'avais entamé mais pas fini parce que j'avais eu très peur et j'étais un peu petite. Ouais. Et donc le pitch des autres, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une grande maison, voilà, très demeure de maître, où habite Nicole Kidman et ses deux enfants. Elle a un mari qui est parti à la guerre et dont elle n'a pas eu de nouvelles depuis la fin de la guerre, donc voilà, présumé décédé ou en tout cas il n'est pas là. Et ses deux enfants sont hypersensibles à la lumière, ils ne peuvent pas recevoir la lumière du soleil. Quoi. Ils ont une maladie qui fait qu'ils sont hypersensibles à la lumière du soleil. Et elle reçoit une famille de trois domestiques pour l'aider à entretenir sa maison. On sent qu'elle est assez autoritaire et qu'elle a des exigences très précises sur comment tenir la maison, en partie pour protéger ses enfants qui sont malades. Et une des restrictions très importantes qu'elle a, c'est que dès qu'on passe une porte, on la verrouille derrière soi et on n'ouvre jamais une nouvelle porte avant d'avoir verrouillé celle d'avant. L'excuse étant, comme ça les enfants ils vont pas par erreur ouvrir une porte qui va leur foutre la lumière du soleil en plein dans la gueule, parce que comme c'est une maison labyrinthique, eux ils vivent du coup que dans des parties de la maison qui sont protégées par des cloisons fermées, quoi. Et donc t'as ces trois domestiques, donc un homme et une femme plutôt âgés et une fille un peu plus jeune qui est en ménage. Et c'est très clairement une histoire, il y a une histoire de fantôme, quoi. Il y a des bruits, il y a la gamine, donc elle a deux enfants, une fille qui doit avoir une dizaine d'années et un fils plus petit qui doit avoir 6 ans. Et elle-même, Nicole Kidman, elle est genre ultra intense et elle a les yeux fous. Et oui. Sa fille, elle lui dit « J'ai joué avec Victor dans le grenier !» Et il n'y a pas du tout de Victor. Elle était là « Putain, c'est Victor !» et tout. Ça fait trop... Enfin, ça fait peur. Mais en mode... Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas du tout de... Oui, c'est juste l'ambiance
thriller,
qui est pesante.
Ouais.
Psychologique.
C'est psychologique, c'est du thriller historique. Enfin, il y a un côté en costume aussi. Et en fait, enfin vraiment... toute l'intrigue est super, c'est un très bon film, je vous dis rien de plus, c'est ça le pitch. Il y a cette mère et ses deux enfants et trois domestiques dans une maison qui a l'air où il se passe des trucs chelous, quoi. Et
j'ai
à vous de voir
la
suite. Moi c'est un film que j'ai jamais pu voir sans savoir exactement ce qui se passait dedans parce que quelqu'un me l'avait raconté, donc je suis un peu, enfin c'est quand même très bien, mais je pense que c'est encore mieux quand on sait pas tout, donc voilà, je ne vous dis pas plus, mais c'est hyper beau. Ça a vraiment pas pris une ride parce que comme voilà, c'est un peu déjà un peu historique et tout en costume, bah t'as pas le côté genre ah ouais, c'est 2001, les looks, les téléphones à clapet et tout, ça va, on est en 1946 je crois. Et Nicole Kidman porte beaucoup le film parce que c'est clairement le personnage principal et celle qui a le plus à faire. Les acteurs enfants sont vraiment pas mal, mais elle carrie le film avec un talent fou. Il y a des plans qui sont des tableaux, enfin vraiment qui sont jetés là, mais les plans sont hyper beaux. Et alors je me suis renseignée sur qu'est-ce qu'il a fait depuis le Réal, parce que bah, c'était très bien. Donc le Réal, c'est un film hispano-franco-américain. Le Réal, c'est un homme espagnol qui s'appelle Alejandro Amenábar. C'est pas une... c'est un A avec un accent dessus, mais j'ai fait allemand, bref. Alejandro Amenábar. Et en fait, il a fait quasiment rien depuis. Donc je suis là, mais comment tu fais Les Autres, qui en plus a bien marché, je crois. Il a fait en 2004 un film qui s'appelle Mar Adentro, en 2009 un film qui s'appelle Agora, et il a fait une série qui s'appelle La Fortuna en 2021, mais voilà, en fait il a fait assez peu de films. C'est aussi le scénariste de Vanilla Sky, film un peu plus connu avec Tom Cruise. Donc écoute, je lui prédisais un peu plus une grande carrière vu ce banger. En tout cas, il n'a pas réalisé autant de films que je l'aurais pensé, mais Les Autres, c'est très très bien. Et pour celles et ceux, on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer notamment de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, qui sont deux séries d'horreur, donc c'est deux saisons d'une série d'anthologie, donc il n'y a pas besoin d'avoir vu l'une pour voir l'autre, c'est deux histoires différentes réalisées par Mike Flanagan sur Netflix, et c'est pareil, des histoires de grandes maisons avec des gens qui emménagent, et des histoires de peut-être il y a des fantômes, peut-être il y a des possessions, on n'est pas trop sûr et tout, mais aussi des histoires très psychologiques et émotionnelles, et qui sont pas là pour juste faire peur, mais pour en fait l'aspect peur, il sert une série qui est juste une très belle histoire très bien racontée, avec des acteurs et actrices et des costumes et des décors au top. Et vraiment, j'ai vu Les Autres et j'étais là, ah ouais, genre Mike Flanagan, t'as vu Les Autres et t'as dit je vais en faire une série et l'appeler Haunting of Hill House, et je suis sûre qu'il assume la ref, mais je me suis dit si t'as pas, comme moi, le courage de te taper une saison entière de The Haunting of, parce que ça me fait trop peur, 2 heures de Les Autres, même pas, il dure 1h40 je crois. Ça marche très bien, c'est vraiment la même énergie et c'est vraiment trop trop cool. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous reparler de Les Autres, un film pas du tout récent, mais qui du coup est peut-être méconnu par toute une génération de zoomers déjà. Et aussi qui est peut-être pas souvent cité dans les films d'horreur les plus cultes parce qu'il fait pas si peur. Mais il est juste trop bien. Donc trop contente de l'avoir revu. Et du coup, je me suis couchée à 2h30. Alors, je me suis pas couchée. C'est pas le film où tu te couches après et t'as peur parce que, genre, c'est pas fini ou quoi. Et tu te dis, putain, il y a un fantôme dans mes rideaux. Mais c'est pas non plus un film feel good. Donc après, on a papoté un peu, on a bu un petit verre de blanc et tout. Et après, on a été se coucher. Donc je n'ai pas assez dormi. Mais pour la bonne cause. Parce que j'ai vu Nicole Kidman carry 1h40 de film. Qui, certes, est angoissant parce que c'est voulu. Mais qui raconte des belles choses et qui, je pense, n'a pas pris une ride.
Merci Mimi.
Trop bien.
Merci à vous et merci pour cet épisode de Laisse-moi kiffer qui du coup se termine ici. Bah oui. On a été presque efficace mais on
ça a
quand
duré
même
1h20.
Non mais parce que je sais que si dans l'intro je dis ouais on va être efficace, les gens ils font non, on veut des digressions, on veut la moitié des infos, vous parliez d'autre chose, on veut des anecdotes. Bah j'ai envie de dire vous avez eu un peu tout, des kiffs, des digressions, des anecdotes, des parenthèses et du contexte.
C'est vrai.
De rien et même de la bouffe.
Du pain, merci du vin, du boursin.
Génial.
À jeudi prochain.
Bisous.
Envoyez des commentaires à Ariane en DM.
Pitié,
le lien est dans la description. Allez, des bisous.
Des bye bisous.
Bye. Salut.
Bisous.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.